bonjour à tous et à tous. En fait, le jour, il devait être annulé parce que l'avion était annulé. Et on a, Madame Sarada, on a fait tout un travail pour changer, pour passer sur Air France, changer d'aéroport pour réussir à venir. C'est le souhait de Madame Sarada, que je lui envoie beaucoup de santé, beaucoup de bracha, beaucoup de réussite pour elle, toute la famille, vous êtes la chaîne. Alors, c'est marqué, on a lu ce Shabbat, la parasha de Zachor, et on s'approche de Purim, et c'est le moment d'avoir certaines réflexions. Alors dans le Rashi, sûrement vous avez lu le Rashi sur la parasha de Zachor, et là-bas il dit, « Laman ispecha parashat mishkalot, le parashat zechirat Amalek ». Juste avant que la Torah nous donne la parasha de Amalek, « Zachor et Maché Asalech Amalek », la Torah elle a donné une loi, une des 613 mitzvot, de faire attention de ne pas tricher sur les poids et sur les mesures. Vous voyez, quelqu'un il va prendre un poids, il y a marqué 1 kg, mais en vérité il y a 800 grammes. Donc quand il voit 1 kg d'haricots verts, en vérité il y a que 800 grammes. Ou alors il a un bâton qui lui sert à mesurer le tissu, et le bâton il fait 85 cm, mais lui il dit qu'il fait 1 mètre, alors il vend 1 mètre, mais en vérité il a... Il dit pourquoi est-ce qu'on a collé cette paracha, l'interdit d'utiliser des faux poids et des fausses mesures, avec la paracha de Amalek. Alors il dit pourquoi. Il dit « Im shikarta bemidot ou bemishkalot » si tu as menti au sujet des mesures et des poids, avait doed migiur aoyev. Tu dois avoir peur de l'agression de l'ennemi. Sous-entendu que Amalek, il va attaquer quand les Israël trichent, quand ils font des embrouilles et quand ils font des tralouettes au niveau du business. Alors Amalek va attaquer. Pourquoi? Shenema, mais osne mirma toevat Hashem. Osne mirma, c'est quoi osne mirma? Osne c'est les oreilles, mais ici c'est les plateaux de la balance. Avant les balances mécaniques, elles avaient deux plateaux. Ça s'appelle les osnaïs, ça s'appelle les plateaux. Mirma, donc les plateaux de tricherie, d'escroquerie, to'evat Hashem, ils sont un dégoût pour Hashem. Et to'evat, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Et après, c'est marqué, Oktivatre, Bazadon, ou Veyavokalon, il va venir le méchant, le volontaire, et il va arriver la honte. C'est entendu que Amalek va attaquer. Donc, c'est entendu, on a fait le lien entre le fait d'avoir des fausses mesures et le fait d'amener Amalek sur les Israël. Maintenant, on ne voit pas tellement le rapport qui existe entre cette notion d'escroquerie et la notion de Amalek. Deuxièmement, dommage que ce n'est pas une galénette parce que ça ne va pas être évident. Donc, deuxièmement, c'est marqué Toevat Hashem ici, oui. C'est un dégoût. Maintenant, le pasouk c'est en réalité qui Toevat Hashem kol rosé Avel. C'est un dégoût pour Hashem, tout celui qui va accomplir, qui va faire des choses de triche, des choses d'escroquerie. Il dit maintenant le mot de Toeva, qui veut dire dégoûtant, il n'a pas été employé pour le ganav et le gazlan, ouais, pour le voleur, mais pour ce type d'escroquerie, il a été employé. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors le Rav Amram Shor, qui est en fait le fils du Or Gedaliaou, si vous avez eu l'occasion d'entendre, c'est un Rav qui est vivant et qui vit aux États-Unis, il a dit cet enseignement. Parce que comme c'est marqué dans le Passouk, qui Toeva Tachem Nelouz, il est dégoûtant aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire, Nilouz, c'est quoi Nilouz? Rachid explique, Nilouz ou Aoler Bederech Hakoum, c'est celui qui va dans le chemin qui est tordu. Et le Maharal de Prague, il dit que Amalek, ça s'écrit Aïn Mem Lamed Kouf, c'est les mêmes lettres que Merakel. Merakel, c'est quelque chose qui est tordu. Sous-entendu, la racine de Amalek, c'est quelque chose qui en soi est tordu. Il dit maintenant, si on dit que Amalek, ça représente le tordu, ça veut dire que la lutte contre Amalek, c'est la yashrut, c'est la droiture. Alors il dit le Avraham Shor, et il y a deux opportunités de faire du mal. Des fois quelqu'un il fait une avéra, comme ça, ça se présente. Ouais, il marche dans la rue, il rencontre quelqu'un, il a envie de dire un lachonara, et justement il rencontre la belle-sœur de la personne sur qui il veut parler. Donc il sait qu'il y aura une oreille attentive. Alors il fait lachonara, mais ça s'est présenté, d'accord. Et quand il a une occasion de mentir, il a menti. Ça s'est présenté. Mais il n'a pas cherché à le faire. Mais il y a une deuxième manière de faire le mal. Où ils sont? Ah. Mais il y a une deuxième manière de faire le mal, c'est quoi? C'est quelqu'un que Chas v'Shalom, il fait avec préparation, avec anticipation. Ouais. Il sait que ce gars-là, il est en mauvaise posture au niveau business, et il sait qu'il a une belle maison, et il sait qu'elle coûte cher, mais comme il n'est pas bien, il veut lui acheter 10 fois plus cher. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il met des annonces? Il casse les annonces, il téléphone, il lui dit la maison elle est pourrie, il fait appeler des gens jusqu'à ce qu'il casse le voile, après il achète à moitié prix. Il dit ça c'est aussi une avéra, mais avec préméditation. Il dit le Rav Amram Shor, Ça, c'est beaucoup plus grave. Même dans la justice profane des non-juifs, oui, quelqu'un qui faute avec préméditation, c'est plus grave. On lui dit, c'est pas tellement compréhensible. Si quelqu'un qui a tué, il a tué. Maintenant, il a tué parce qu'il s'est énervé et paf, il a tué. Ou il a tué parce qu'il a préparé son coup pendant 6 mois. Mais en fait, ce qui est grave, c'est de tuer. Alors pourquoi ils appellent ça des circonstances aggravantes? Ça veut dire que le fait de faire des choses avec préméditation, c'est quelque chose de plus grave. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans le fait de préparer et dans le fait de préméditer la faute? Alors il explique comme ça, que c'est ça le pshat de la Gemara. C'est marqué dans Yoma, Daf Kaf Tet, Ir Ure Avera, Kashim et Avera. La pensée de l'Avera, c'est plus dur que l'Avera. Alors normalement, le sens qu'on donne ici, c'est que pourquoi les pensées de l'Averot, c'est plus grave que l'Averot, c'est plus dur que l'Avera? Parce que c'est plus dur de lutter contre une pensée que contre un acte. Et même quelque chose que quelqu'un il a vécu dans les faits, ouais, il a mangé pas cachère. Mais bon, Hachem, il a bien fait tchouva, il a pris sur lui. Il ne se rappelle même plus. Il ne se rappelle même plus où c'était. Il ne se rappelle même pas du restaurant. Il ne se rappelle de rien. Par contre, dans la pensée, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Alors moi, je vais toujours comparer un petit peu dans la photographie. Aujourd'hui, il y a la photo numérique. Avant, il y a la photo analogique. D'accord? Donc, quelqu'un, il prenait une photo. Alors, il sortait un négatif. Avec le négatif, on sortait la photo. Mais la photo, elle est en papier. Le négatif, il va s'user. Il va se jaunir. Le papier lui-même, il va se jaunir. Il va s'user. Il va disparaître. Il va partir en poussière. Mais aujourd'hui, maintenant, quand tu prends une photo en numérique, c'est un fichier. Le fichier peut rester 10 000 ans. Il ne va jamais s'user. Alors j'ai dit, le monde extérieur, c'est un peu comme la photo analogique. Et le monde intérieur, c'est comme la photo numérique. Maintenant, quelqu'un qui a fait un acte, même qui était grave, même qui était assourd, mais en vérité, il ne se rappelle plus. Ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 16 ans. Parce que ça appartient à la matière, ça appartient au temps. Donc ça disparaît avec le temps. Par contre, un acte qui a été vécu malheureusement dans la pensée, quelqu'un qui a vu une image dégoûtante quand il était petit, ou quelqu'un qui a des mauvaises pensées, c'est incroyable que la mauvaise pensée, elle peut rester des années, elle ne se gaspille pas, elle ne s'abîme pas, elle reste, ouais, comme la haine, la claque, tu as reçu la claque, ça t'a fait mal pendant 3 secondes, après ça t'a brûlé pendant 20 minutes, mais 2 ans après, t'as la même haine. Pourquoi? Parce que la claque, elle est sur l'extérieur, et l'extérieur, c'est dans la temporalité, c'est dans la matière, donc ça va s'arrêter. Par contre, l'intérieur, les choses de l'intérieur ne sont pas soumises au temps, donc automatiquement, à l'intérieur, c'est infini. Et la Mahashava, elle est à l'intérieur. Alors, c'est ça le pshat de la Gemara, Irurim Avera, Kashim Avera. La pensée de l'Avera, oui, c'est pire, c'est plus dur que l'Avera. Mais, je vais casser la voix, c'est dommage. Mais, donc, sinon, vous venez tous ici et je vous parle dans l'oreille, comme ça je... Mais une autre lecture. C'est quoi Irure Avera, Kashime Avera? Alors il dit comme ça, le Rav Avraham Shor. Amachashava, la pensée, les achinatsmo la sot avera, oui, de se préparer pour faire la faute, veze adargash el asiat avera im achana, ça c'est le niveau de faire la faute mais avec une préparation. Ou Bechinat Ara chez l'Amalek. Ça, c'est le niveau de mal de Amalek. Maintenant, on avait expliqué déjà plusieurs fois que le mot Machashava, il vient du verbe Lachshov, qui veut dire penser. Et il vient aussi du mot Chashuv, qui veut dire important. Ça veut dire que quand tu mets ta tête dans quelque chose, la valeur, c'est que tu lui donnes une grandeur, parce que tu mets ta tête dedans. Mais quand tu mets ta tête dans le mal, le problème, c'est que Ata Marchiv Oto. Tu le rends chashuv. Machashava, ça veut dire aussi marchiv. Maintenant, quand quelqu'un il met sa tête dans la vera, il prépare la vera, et il profite de la vera, et il kiffe la vera, il dit ça c'est Bechinat Amalek. La achana de la vera, oui, comme on sait dans une mitzvah, il y a plusieurs niveaux. Quand on dit quelqu'un, osek ba mitzvah, pas tomber la mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Et là-bas, la Gemara dans Souka, et dans Brachot, elle dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a Osek, au moment même où tu es en train de faire la mitzvah, tu es en train d'écrire la mezouza. Ça s'appelle Osek ba mitzvah, au moment même. Après, il y a Olech l'idvar mitzvah. Je suis en train d'aller pour aller à la tfila. Je marche pour aller faire le kriyat shema, disons le kriyat shema qui est minatora. Donc quand je suis sur le chemin, je ne suis pas en train de faire une mitzvah. Je suis en train de marcher pour aller faire la mitzvah. D'accord? Ça s'appelle Olech l'idvar mitzvah. Ça fait déjà partie de Osek ba mitzvah. On l'inclut à l'intérieur de l'occupation de la mitzvah. Mais avant l'occupation à l'instant T, et avant l'occupation, avant d'arriver à l'occupation elle-même, il y a ce qu'on appelle l'occupation avant. C'est comment on appelle l'occupation avant l'occupation ? La préoccupation. C'est la préoccupation, tu es préoccupé. Ouais. Et là-bas, la Gemara dit que Tirda le mitzvah, le souci de la mitzvah, il fait lui-même partie de la mitzvah. Vous me suivez ou... Oui. Maintenant, si je dis que dans la mitzvah, l'acte de la mitzvah, le chemin pour aller à la mitzvah, et la pensée qui vient avant la mitzvah, il compte dans la mitzvah, alors malheureusement, dans la Avera, l'acte de la Avera, après, les moyens que tu te donnes pour faire la Avera, et ensuite, la pensée pour arriver à la Avera, ils font partie de la Avera. Il dit ça, ce niveau-là, que quelqu'un, il est dans une pensée de Avera, il est dans une préméditation de Avera, pourquoi c'est plus grave? Parce que tu te dis, mais la Avera, c'est la Avera, que c'est maintenant, il a mangé ta ref, ouais, ou alors il a pensé à manger ta ref avant de manger ta ref, ou il a cherché un bon restaurant pour manger ta ref, après il a ramassé de l'argent pour avoir un super repas ta ref, pourquoi c'est plus grave que manger ta ref? T'as mangé ta ref. Et en vérité, la différence, elle est simple. Quelqu'un qui, de manière spontanée, il fait une Avera, il y a l'Avera qui se présente, il fait l'Avera. Tu ne peux pas savoir si c'est un accident ou si c'est sa nature. Mais quand quelqu'un il s'inscrit dans une logique à long terme et qui prépare la chose et qui recherche la chose et qui organise la chose et qui kiffe la chose, t'as un problème. C'est qu'en vérité, c'est pas qu'il a fait une Avera, c'est qu'il a montré quelle est sa nature. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Oui, on ne lui compte pas. On ne lui compte pas. Non. Non, parce que la Gemara dans Kiddushin a dit que pour les goyim, oui, mais pour les juifs, non. Maintenant, quand les juifs, ils ont bien l'habitude de faire certaines averot, on lui compte. Oui. Voilà. Maintenant, je dis tout de suite, les questions, il vaut mieux attendre la fin. D'abord parce que les cours particuliers, ça démarre à 12 000 euros, donc je ne sais pas, je ne connais pas vos facilités. Alors, par ça, parce que ça me dérange, mais c'est pas grave. Alors, voilà, si c'est comme ça, maintenant on arrive à une chose qui est incroyable. C'est que, il dit Amalek, Rachetevot. C'est quoi Amalek? Il dit c'est Rachetevot, c'est les premières lettres de. Parce que Aïn, même la Medkouf, ça fait Machashava Kodem le Asiat Avera. La Machashava, la pensée, avant l'accomplissement de l'Avera. Donc ici c'est marqué quelque chose d'incroyable. C'est que la pensée de l'Avera, on a dit, elle fait partie de l'Avera. Parce qu'elle met en place l'Avera. Il dit, et chez Amalek, c'est la caractéristique. Alors, cette notion, elle existe aussi quand on dit Avera Goret Avera. Ouais, une faute entraîne une faute. Alors, nous, on croit qu'il y a une espèce d'effet domino, parce que tu fais cela, qui entraîne cela. C'est une loi en physique, toute action entraîne une réaction, d'accord? Et qu'on le veuille ou non, on participe à un phénomène. On ne veut pas dire je ne savais pas, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi, parce que de toute façon, c'est mécanique. Une chose entraîne une autre, ouais. Mais le Nefesh HaChaim, il t'explique différemment. C'est quoi Avera Goret Avera? Au moment où tu fais une Avera, au moment où tu as une pensée de Avera, tu crées un ange. Oui. Et cet ange-là, c'est lui qui va préparer la Avera physique. Maintenant, le fait d'avoir fait la Avera physique, ça crée un ange qui crée la prochaine pensée de Avera. Ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est une dynamique. Nous, on voudrait que les choses, elles soient séparées. Nous, on voudrait que les choses, elles soient limitées. Mais en vérité, c'est faux. Quand tu es dans une dynamique positive, va au Hachem. Le bien entraîne le bien. Mais quand tu es dans une dynamique négative, malheureusement, le mal entraîne le mal. C'est un peu comme quand il y a le feu dans une maison. La première chose que ils font les pompiers, c'est quoi? La première chose qu'ils font quand il y a le feu dans une maison. La première, ils coupent le gaz. Parce que ça va exploser. C'est pareil. Quand le médecin il vient, l'urgentiste, il y a un accident, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait la première chose? D'abord, il voit s'il y a une hémorragie. S'il y a une hémorragie, il met un garrot. D'abord, il arrête l'hémorragie. Après, on a le temps, on peut traiter la blessure, la fracture, on peut traiter. Mais arrête l'hémorragie! Alors, c'est pareil maintenant. Est-ce que toi, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu es capable de voir où est-ce qu'elle est l'hémorragie? Oui. Par exemple, tu as un conflit d'argent avec quelqu'un. En vérité, c'est un problème de GAVA. Donc, il faut que tu débranches l'hémorragie de la GAVA. Oui. Et là-bas, c'est un problème en vérité de cavode. Et là, c'est un problème de nerfs. Et là, en vérité, c'est un problème de déception. Et là, c'est un problème de famille. Maintenant, toi, tu es en train de parler d'argent. Mais en vérité, le gars, il a un problème de vexation. Donc, si tu n'es pas capable d'arrêter l'hémorragie, donc ça ne va servir à rien. Tu te dis, mais voilà l'argent, voilà l'échec, voilà tout. Ça ne sert à rien parce qu'il est vexé. Ça ne sert à rien parce qu'il est déçu. Vous voyez ce que je veux dire ou non? dit, ça, ça s'appelle quoi? Ça veut dire que toi, tu ne dois pas regarder la Avera seulement. Tu dois regarder la Avera qui a provoqué la Avera. Comme le contraire, quand tu vois une mitzvah, tu dois réfléchir à la mitzvah qui a entraîné la mitzvah. Toujours qu'on raconte que quand ils ont voulu construire la yeshiva de Vologine, alors il y a un monsieur très riche qui a acheté le terrain. Ouais. Il a acheté tout le terrain, lui tout seul. Et après, monsieur, beaucoup de donateurs, ils ont fait pour construire la yeshiva. Et quand ils ont posé la première pierre, ils ont fait un grand kavod. Et il y avait ce monsieur, ce milliardaire, qui a donné le terrain pour la yeshiva de Vologine. C'était la plus grande yeshiva d'Europe de l'Est. Et en plus, c'était une yeshiva qui travaillait les 3-8. C'est que les gens étudiaient le jour et la nuit. Et les plus grands rabbins, ils sont sortis de cette yeshiva-là. C'était la yeshiva du native. C'était énorme. Ouais. Et quand ils étaient tous les rabbins, ils sont montés pour faire la louange et dire que la kavod, monsieur, quelle mitzvah vous avez fait, quelle mitzvah. Yahav, il est monté, il a dit, je ne suis pas jaloux de la mitzvah que vous avez fait d'acheter le terrain. Il a dit, je suis jaloux de la mitzvah que vous avez fait, qui vous a donné le mérite de faire cette mitzvah. Parce que cette mitzvah-là, on voit tout de suite le kavod que vous avez. Mais il y a une mitzvah énorme que vous avez fait avant, qui vous a donné le mérite de faire celle-là. Et sur l'autre, il n'y a pas eu de kavod, personne n'est au courant, la preuve. Si déjà pour celle-là on a fait une fête, qu'est-ce qu'on aurait fait pour l'autre qui a entraîné que vous avez pu faire celle-là? Donc il a dit, je suis jaloux de la mitzvah qui a été goréret, cette mitzvah-là. Oui, c'est logique ou non? Ça s'appelle la partie invisible des choses. C'est comme quand tu vois un couple qui s'entend bien, tu ne dois pas dire, ah, grâce à Dieu, ils s'entendent bien. Tu dois dire, oh, combien d'années ils ont dû parler, ils ont dû se remettre en cause, ils ont dû travailler leur méthode. Quand tu vois un enfant qui est éduqué, tu ne dis pas, grâce à Dieu, il est tombé sur la bonne étoile, il est éduqué. Non, s'il est éduqué, il y a eu du travail, il y a eu du chol, il y a eu du kodesh, il y a eu des prières, il y a eu des trehas, il y a eu de la Torah, pour arriver à ce résultat. Ça veut dire que les choses, elles ne sont pas par hasard, elles se font. Maintenant, après la lecture, ici c'est marqué que c'est pour ça qu'il dit que dans le mal, malheureusement, dans le mal, cette behina de Amalek, de la ahana, c'est-à-dire cette approche-là, de faire les choses avec une préparation, alors il s'est argumenté ici par la Mechilta. La Mechilta, elle dit, Sheba Arba Me'ot Parza. Qu'en vérité, Amalek, il n'est pas venu comme ça. Les Bnei Israël ne sont pas arrivés à la frontière de Amalek. C'est pas qu'ils ont empiété sur le territoire de Amalek, que Amalek s'est senti menacé, il a attaqué. Il est venu de Arba Me'ot Parza, ça veut dire, une parsa, c'est 4 km. Il est venu de 400 parsa, ça fait 1600 km. C'est qu'il n'était pas du tout menacé. Mais il est venu pour faire du mal. Oui. Il est venu pour détruire. Il est venu pour faire la guerre. Il dit ça, cette logique-là, ça s'appelle la Mahashava. Alors le Rav Ramchor, il donne la définition. Il dit c'est quoi? Rosé misé derer haïm shelo. Il fait de cela son derer haïm. Oui. C'est-à-dire que la nature profonde de la personne, la direction qu'il va donner, l'ensemble de ses comportements, il participe à cette logique-là qui s'appelle Amalek, c'est-à-dire Ma'akad, le fait d'être tordu. Ouais. Maintenant, nous, c'est bien, on dit, bon, Hachem, on a compris, ça, encore une facette de Amalek qui est très grave, et nous, grâce à Dieu, on est tous des tzadikim. Mais le problème, c'est que le Rav Yechizkel Lichtenstein qui dit que, avant de chercher le Amalek qui est dehors, tu dois chercher le Amalek qui est chez toi. Maintenant, ici, je pourrais dire, mais pourquoi? Pourquoi il veut me complexer, ce Rabbi Christian Levinstein? Ouais, il veut m'angoisser, maintenant je vais commencer à me tarbouler, me faire des boulons d'estomac. Alors moi aussi, je suis à Malek, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors, Newton est obligé de remonter un petit peu dans l'histoire. Des éléments qu'on a déjà vus ensemble, mais c'est pas grave. D'abord, je vois des têtes nouvelles, et en plus de ça, on peut réécouter, parce que peut-être qu'à force de répéter, peut-être qu'on va comprendre. Vous savez que Esav et Yaakov, son frère, et frère, jumeau, ouais. Maintenant, il y a une grande réflexion qu'il faut avoir. Moi, j'ai dit ça, ça prouve que la Torah, elle est divine. Parce que si c'était un homme qui avait écrit la Torah, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait écrit qu'il y avait une famille de fous, une famille de malades, monsieur et madame Tahoula, ouais, qui est un drogué et une prostituée, et ils ont eu un enfant qui s'appelait Esav. Et il y avait une famille, des tzadikim, des lumières, des kedoshim, des puretés extraordinaires, qui ont eu un enfant qui s'appelait Yaakov. Et la Torah, elle ne dit pas ça. La Torah elle dit que Esav et Yaakov, ils sont nés dans la même famille. Donc c'est un rosier qui a donné une pomme et des ronces. Mais c'est un rosier, c'est le même rosier, c'est très bizarre. Deuxièmement, encore pour enfoncer le clou, nous on aurait pu dire, ok c'est la même famille. Mais peut-être qu'à un moment, le papa et la maman, ils étaient bien, ils étaient dans un esprit de pureté, d'élévation, et ils ont eu un enfant comme Yaakov. Et malheureusement, une autre fois, ils n'étaient pas bien, ils pensaient à divorcer, ils avaient bu de l'alcool, ils avaient de la touma, et ils ont fait Esav, le même couple, ils ont eu un enfant tendu, un enfant extraordinaire, la Torah dit non, 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 la même grossesse. La Gemara elle dit, il y en a qui disent même c'était la même fécondation, ça veut dire il y avait une seule grossesse, ce n'était pas des faux jumeaux, des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux, c'est grave. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire qu'il y a une ovule qui a vu arriver deux spermatozoïdes, un pourri et un tzadik. Alors elle ne sait pas qu'elle ouvre la porte, si elle ouvre celui-là, l'autre rentre aussi, comment elle va faire? C'est difficile. Et les deux, ils sont nés de là-bas, et les deux, ils ont une racine extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on est obligé de penser, c'est difficile à comprendre, mais il faut l'accepter, qu'en vérité, dans l'absolu, Esav aurait pu être un tzaddik. Et Yaakov aurait pu être un rachat. Ça vous énerve pas, ouais? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, oui, c'est un rachat qui s'est préservé. Et c'est quoi un rachat? C'est un tzaddik qui s'est détourné. Oui? C'est quoi un rachat? C'est un tzaddik qui a mal tourné. La preuve, c'est que souvent tu vois des réchaïs qui ont un très bon fond. Le gars, c'est un voyou, c'est un truc de la mafia, de la halala. Tu viens le voir, tu l'écoutes. J'ai une veuve là en Israël, elle a 8 enfants, il faut 40 000 $. Le gars, il sort son chéquier, il t'a quitté les sorts. Et 2 minutes après, il tire une balle dans la tête de son ennemi. C'est le même gars. Le fond, il est bon. Le fond, il est bon. Mais l'extérieur, rachat tordu. Ouais. Le contraire aussi, tu dis Khaz Vesholom, les tzadikim, Le Rambam il dit, tu crois que les tzadikim, ils n'ont pas Yitzhara? Et tu crois qu'ils ont un petit Yitzhara? Kol Agadon Michavero, Yitzro Godel Imeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Yitzhara, il est plus grand. Donc en vérité, le tzadik, il a un très grand Yitzhara, mais il le maîtrise. Et le Racha, il a un Yitzhara Tov, mais il s'identifie pas à lui. Il suit son Yitzhara. Donc maintenant, on a un problème. C'est que si le bien et le mal, ils viennent de la même racine, d'accord, et que le bien contient du mal, et que le mal contient du bien, donc en fait, Yaakov et Esav, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Ça veut dire que le mal et le bien, c'est quelque chose de très proche. Comme la pureté et l'impureté, c'est quelque chose de très proche. Comme la hachivout que tu donnes, et la dérision que tu apportes, comme la letchanout, ouais, et le sérieux, c'est quelque chose de très proche. C'est pas des milliers de kilomètres. C'est comme le respect et le manque de respect. Tu peux respecter quelqu'un et en 3 minutes tu lui fais bisaïon. Tu comprends, mais ce qui s'est passé, c'est où c'est du respect ou c'est pas du respect. Il dit la logique, c'est ça. C'est que la Torah, elle a voulu montrer comment Esav et Yaakov, ils sont tellement proches l'un de l'autre, écoutez-moi bien, qu'en fait, ils sont reflets l'un de l'autre. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, la destinée de Esav et la destinée de Yaakov, ils sont liés. Bizarrement, la Torah ne parle pas des Chinois. Pourtant, ils sont beaucoup. Elle ne parle pas des Indiens. Pourtant, ils sont nombreux. Ouais. Et bien, quand vous regardez l'histoire du monde, elle tourne autour d'Israël et de Esav. La guerre, ils sont pour, ils sont contre, ils sont pour, ils sont contre, ils sont pour, ils sont contre. Mais parle des Chinois. Non, ils sont des milliards. Oh, la menace, les Chinois, le jour où la Chine se réveillera. D'accord, mais dans le Maasé, il se passe rien. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le pendant de Yaakov, c'est Esav. Et le pendant de Esav, c'est Yaakov. C'est ça que la Gemara dit, quand Babel, elle monte, quand Yerushalayim, elle monte, Babel, elle descend. Mais quand Yerushalayim, elle descend, Babel, elle monte. Il y a une espèce de vase communicant entre Esav et Yaakov. Maintenant, c'est qui Amalek? C'est le descendant de Esav. Donc en fait, Yaakov, les Béné Israël et Amalek sont des cousins germains. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les cousins qui étaient germains, germaniques. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Sanhérive, il a été Melbabel et Taumot, il a mélangé les peuples. Donc c'est pas comme avant. Avant, il y avait un peuple d'Amalek. Maintenant, Amalek, malheureusement, il est dispersé, il change de visage. Une fois, il s'appelle l'Inquisition. Une fois, il s'appelle les croisés, les croisades. Une fois, il s'appelle Hitler. Une fois, il s'appelle Saddam Hussein. Mais on sait, nous, que dans chaque génération, Bechol Dor Vador, Bechol Dor Vador, et on n'a pas attendu Star Wars, ouais, pour comprendre ça, que dans chaque génération, il va venir Star Wars. Bon, Dark Vador, mais je vous avais une... Ah oui, vous avez une réactivité qui est proche du coma. Donc, c'est pas grave. C'est le repas de midi qui était trop lourd. Alors, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que nous, on sait que Bechol Dorvanor, ouais, il y aura un élu qui va monter. Maintenant, étant donné que vous n'êtes pas des enfants et que vous utilisez votre cerveau de manière régulière, ouais. Alors moi, je vous pose une question. C'est que quand il arrive une chose une fois, ça s'appelle un accident. Mais quand quelque chose dure, on appelle un phénomène. Maintenant, si un phénomène il existe, ça veut dire qu'Hachem l'a voulu. Donc si Hachem il a voulu que Esav et Yaakov ils viennent d'une même famille, et si Hachem il a voulu que Amalek ça soit l'ennemi éternel d'Israël, et si Hachem il a voulu qu'il y a l'antisémitisme, et si Hachem il a voulu qu'il y a eu ce qu'il y a eu, donc ça veut dire que c'est nécessaire. Deux minutes. On est la fin du programme. Vous voulez aller à Mashiach, mais attendez un peu. Moi, je récarte quelque chose. Quoi. Un peu de suspense. C'est dommage, parce que j'avais le numéro du loto, mais comme vous avez demandé Mashiach, c'est pas grave. Alors, mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très très important. Ça veut dire que, comme j'ai dit plusieurs fois en rigolant, j'ai dit, on a prouvé statistiquement que souvent, le reflet qui apparaît dans le miroir n'est que le reflet de ce qui est en face du miroir. Ça, vous l'acceptez intellectuellement, vous l'acceptez? Souvent, quand vous êtes, souvent quand vous êtes devant un miroir, peut-être c'est mieux que ma bébécite. Donc, souvent quand vous prenez un miroir, la personne que vous voyez dans le reflet, ouais, en fait, c'est le reflet de la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Ça va? C'est trop abstrait. Ça va, oui ou non? En général, quand on est devant un miroir, ce qu'on voit dans le reflet, c'est la personne qui est en face du miroir. Oui ou non? Je sais pas, moi, je... Non, parce que vous me dites, sinon je baisse le niveau de la conférence. Eh ben, c'est faux! C'est faux, pourquoi? Parce que quand on est tout seul dans une situation, qu'est-ce que qu'on fasse? On est seul. Mais quand on est deux, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on peut accuser l'autre. Donc tu vois bien dans le miroir, tu vois l'autre, tu vois pas toi. Incroyable, non? Et bien l'autre juif, c'est Amalek. T'as compris ou non? Parce qu'en plus qu'on a dit qu'ils viennent les deux de la même racine, donc dans Amalek, il y a un potentiel de Israël, et dans Israël, il y a un potentiel de Amalek. Donc Amalek, c'est l'anti-juif. Ouais.
Donc c'est la faute du juif?
Deux minutes. On verra avec des cas personnels après. Ouais, d'accord. Mais si Amalek, c'est l'anti-juif, donc normalement Israël, c'est l'anti-Amalek. Normalement. Ça va? Mais étant donné qu'il y a du Amalek dans Israël et Israël dans Amalek, donc c'est quoi le Yetzer Hara de Israël? C'est d'être un bon goy. Il va être mieux que le goy, et plus que le goy, et plus dans le business, et plus dans la bourse, et plus dans le cinéma, et dans la renommée mondiale. Ouais, et même d'être reconnu. Israël, ils n'arrêtent pas de se battre pour développer leur opinion, qu'ils soient reconnus par l'opinion publique. Ils font des médicaments qui sauvent le monde entier. Tous les téléphones du monde, ils marchent grâce à Israël. Tous les ordinateurs du monde, ils marchent grâce à Israël. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, ils envoient des équipes pour sauver tout ça, mais on continue à les accuser de tous les maux. Parce que comment veux-tu que Amalek, il dit merci à Yaakov? Mais le pauvre Israélien, ouais, s'il mettait les tefillines plus souvent, il comprendrait. Il croit qu'il va être reconnu par les goïms. Mais il peut pas. Il peut pas, ça marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a Alakha. Alakha, Esav, ce n'est Yaakov. Alakha, que Esav, il a la haine de Yaakov. Ah, tu dis, mais on pourrait pas arranger ça. On pourrait pas trouver une solution. Mais non, puisqu'on a dit qu'une chose, quand elle arrive une fois, c'est un accident. Mais quand elle dure, c'est un phénomène. Et si ça dure, c'est que c'est nécessaire. Donc on a besoin de la haine de Esav. On a besoin de la haine de Esav. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, mais je ne sais pas si vous révisez. Le Zohar, il dit. Combien ils sont arrivés les Israël en Égypte? Rappelez-vous. Combien? 70. Combien ils sont sortis? Non, c'est que les hommes de 20 à 60. Ils sont sortis 3 millions. Ouais. Mais alors, en réalité, ils étaient 15 millions. Il y a 12 millions qui sont restés sur place. Il y en a qui ont préféré le menu égyptien. D'accord? Mais si tu réfléchis bien, comment ils sont passés de 70 personnes à 3 millions de personnes? Alors, le Zohar, il dit... Parce que l'Égypte, c'était le pays où on avait la plus grande haine contre les Juifs. Donc un Juif ne pouvait pas se marier avec des Égyptiens. Donc ils étaient obligés de se marier entre eux. C'est comme ça qu'ils sont devenus 3 millions. Mais s'il y avait eu l'amitié judéo-égyptienne, au bout de deux générations, chiffre à l'âme, les Juifs, où ils sont disparus. Comme en 70, c'est fini. Donc s'il n'y avait pas eu la haine des Égyptiens, hein, le peuple juif ne serait pas né. Donc il n'y aurait pas eu Am Israël pour recevoir la Torah. Et s'il n'y avait pas eu la haine des Espagnols, ouais, donc les Juifs, ce serait un assimilé en Espagne. Donc ils n'auraient pas développé des communautés ailleurs. Et s'il n'y avait pas eu les croisés, et il n'y avait pas eu le ghetto, et ben les Juifs, ils se seraient mélangés pendant 2000 ans de galoute. D'ailleurs, quand est-ce qu'ils ont commencé les problèmes? Quand on a donné le statut à la Révolution française, on a donné le statut de citoyen à l'homme juif, on a ouvert les ghettos, du coup ils sont arrivés, à, grâce à Dieu, à 80% de mariages mixtes. Pourquoi? Parce que Esav, quand il a compris que la guerre ça marchait pas, parce que les juifs, plus tu leur fais mal, plus ils se renforcent, il a dit, ben, puisque la guerre ne marche pas, on va faire l'amour. Faites l'amour et pas la guerre. Tu dis, prenez nos filles, prenez nos universités, prenez nos commerces. Mais laissez tomber la Torah, laissez tomber cette Torah archaïque qui ne sert à rien. C'est ça la force de Amalek. Amalek, il va te proposer de sortir de ta protection. Et c'est ce qui est marqué, que les bénis d'Israël, ils étaient, c'est ça qu'on a Nechéchalim. Ouais. Que Amalek, il attrape qui? Il attrape les Nechéchalim. C'est quoi les Nechéchalim? C'est les gens qui se sont affaiblis. Maintenant, les Anan et Kavod protègent leur âme Israël. Vous savez que quand ils sont dans le désert, les bénis d'Israël sont invisibles. Et les montagnes sont aplanies. Ouais. Et la température, elle est constante. Et les habits, ils ne s'usent pas. Et le manger, il se digère bien. Tout ça parce qu'ils sont dans les Anan et Kavod. Mais s'ils se relâchent dans les mitzvot, alors Anan et Kavod, Polti Motam, ils les rejettent. Et qui c'est qui les attend juste à la sortie de Anan et Kavod? Amalek. Et Amalek, il les attrape, il les frappe, il les tue, et il leur coupe la Brit Mila, il la jette vers le ciel. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Mais tu crois que quoi, c'était à l'époque? Tu dis, oh, on se rappelle d'une époque, on était dans le désert, il y avait Amalek qui attendait. Mais c'est quoi les Anan et Kavod? Les Anan et Kavod, ouais, c'est le mikvé, c'est la kashrout, c'est la Torah, c'est la kippa, c'est la sniout, c'est la perruque, l'investissement, c'est l'étude de la Torah. C'est ça les Anan et Kavod. Mais alors quand quelqu'un dit, vous savez, il ne faut pas trop exagérer. On n'est pas des païens, mais on n'est pas les shalom des orthodoxes non plus. Il ne faut pas que Dieu le préserve, oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'écartes de tes repères. Quand tu t'éloignes de tes repères, tu arrêtes d'étudier la Torah, après tu deviens ignorant, après tu dis bon il faut être sympathique avec les gens, après il faut enlever les signes de différence, après tu dis on mange avec eux, après on te dit les restaurants de toute façon qu'est-ce que c'est, je t'en prie, c'est du poisson, bon du requin mais c'est du poisson, d'accord, bon il a fait griller une côtelette de porc juste avant, mais Dieu il regarde pas le goût, et après tu te retrouves muté, d'accord, à 22 km de Florence. Tu dis que c'est bien, tu as trouvé ton poste. Là-bas, tu es seul. Et il y a Christine qui est là. Elle fait les devoirs avec toi. Et puis après, tu l'épouses. Après, il y a trois enfants qui naissent. Frédéric, Ludovic et Sultan. Le Sultan, c'est le maire allemand. D'accord? Et après, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, tu as été rejeté par l'année Kavod. Toi, tu crois que tu as fait un choix. Toi, tu crois, moi, j'ai fait mon choix. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas dans la communauté. Je suis pas... Non, mais c'est faux. Tu as été rejeté par les années Kavod. Toujours je donne cet exemple, c'est comme quelqu'un, il a pris un avion pour aller passer des vacances à Hawaï. Donc il s'est acheté une chemise à fleurs, un short et des tongs. Et il a un petit sac en tissu comme ça, tac. Malheureusement, l'avion, il a été détourné, il se retrouve en Alaska. Il sort de l'avion, il fait moins 64. Il sort, il commence à se sentir un peu congelé. Il y a un Esquimau qui est là-bas, qui est couvert avec 54 polaires, un habit en fourrure, des lunettes, des lunettes, il le regarde, il dit, tu vas mourir, il rigole. Il dit, mais comment je vais faire? Ok, je suis en rayonnement, je suis en clip, comment je vais faire? Il fait moins 64, il dit, tu vas mourir. Il dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Il y a une solution. Ah, comment il faut faire? C'est très simple. Tu vas prendre une scie, il lui donne la scie, tu vas couper des blocs de glace, et avec les blocs de glace, tu vas te faire une maison. Il a dit, je crève de froid, je vais faire une maison en glace. Oh, il a confiance. Oh, il commence à couper, il coupe. Alors, tu fais un premier rond comme ça, après tu fais une deuxième rangée, une troisième rangée, après à la fin tu finis. Mais combien il faut couper des blocs de glace 613? Tu dis non, c'est trop. Moi j'en mets 611. Tu en mets 611, il en manque deux. Il en manque un là. Le courant d'air, alors je vous rappelle que quand il reste moins 64, avec le vent ça fait moins 180. Et on le trouve, une œuvre d'art de glace. Ouais? Bonjour. Donc tu as besoin des 613. Parce que toi tu crois, ah, ça c'est exagéré, ça c'est trop, ça c'est des rabbins, ça c'est l'ambiance, ça c'est le baba. Écoute, la Torah c'est une règle. Ouais. C'est comme si tu sors de chez le cardiologue, il te dit vous prenez ça, sinon vous allez mourir. Ah, tu dis, il y en a trop, j'en enlève trois. Alors tu dis, gadal, vit gadal, chez mes rabbins. C'est moi le docteur. Le meilleur docteur du monde, c'est le bon Dieu. Il t'a donné une ordonnance avec 613 médicaments. Et toi tu dis, c'est trop. Ah, on n'est pas à ce niveau, ça y est, ça, ça fait 3000 ans, ça y est, ça suffit maintenant, on va faire quelque chose de plus. Tu manges kashir, tu respectes ton père et ta mère, tu viens à la synagogue pour Kippour, tu fêtes Kippour, tu fais un repas pour fêter Kippour, tu ne fais des courses que le samedi après-midi en famille. Tu es déjà sorti d'Anan et Kavod. Et quand tu sors d'Anan et Kavod, il t'attend à Malek. Et qu'est-ce qu'il fait à Malek? Vous avez lu Rashi, non? Oui. C'est quoi Vaizanev Becha? Vaizanev Becha, Rashi donne deux explications. Zanev, c'est la queue. Il dit, une explication est coupée, la brit mila jetée en l'air. Deuxième explication, Mishkaf Zachor. Mishkaf Zachor s'appelle l'homosexualité. Donc quand tu sors d'Anan et Kavod, il n'y a pas que la Goya qui t'attend, il y a le Goy aussi qui t'attend, parce qu'il te trouve mignon. Vous avez compris ou non? C'est qu'en vérité, la Touma, c'est le contraire de la Torah. Donc quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Mais attention, parce que comme l'univers n'aime pas le vide, donc quand la Torah, elle sort, la Touma, elle rentre. Toi, tu dis, non, je suis parvé, je suis ni halavi, ni ebassari. N'existe pas. Même la bouteille d'eau, je m'excuse de vous choquer, mais la bouteille d'eau, quand tu la vides, il y a de l'air dedans. Toi, tu dis, mais qui c'est qui a mis l'air? Elle a l'air de rien, il est venu tout seul. Comme dans ta maison, si tu ne mets pas le chaleur, il y a le balagan. Les enfants, si tu ne les éduques pas, ils ne sont pas éduqués. Si tu ne leur apprends pas à lire, ils ne savent pas lire. Si tu ne leur apprends pas à réfléchir, ils ne savent pas réfléchir. Si tu ne leur apprends pas à compter, ils ne savent pas compter. Après, tu dis, mais comment ils peuvent tellement brêler? Mais on t'a dit, apprends-lui. Tu n'as pas voulu, il n'a pas appris. Maintenant, celui qui n'apprend pas, il a une autre vie que celui qui a appris. Ils ont la même réalité. Mais un, il la vit de manière droite, et l'autre, il va la vivre de manière tordue. Maintenant, nous, on dit, bon, ça c'est Amalek, ça c'est l'égoïme, ça c'est... Calme-toi, ça serait bien si c'était comme ça. Mais étant donné que tu n'es pas obligé de devenir Amalek, mais tu peux acquérir les midot de Amalek. Tu peux même avoir la hashgaha de Amalek. Vous savez, quand quelqu'un me téléphone, il me dit, ah, mais chérie, je vous dis la vérité, il y a une grosse bagarre avec les beaux-parents, et c'était le soir de Rosh Hashanah, et j'ai levé la main, mon frère, il a eu peur, il m'a lancé un couteau, à ce moment, la belle-mère, elle a dit, c'est une agression, ils ont appelé la police, et on était toute la nuit de Rosh Hashanah à la police. J'ai dit, mais en dehors du fait que c'est Rosh Hashanah, en dehors du fait que c'est une bagarre, en dehors du fait que ça casse la famille, mais c'est une hashgaha de goy d'être le soir de Rosh Hashanah à la police. Mais qu'est-ce que tu fais sur cette photo? Vous suivez ou non? Mais est-ce que c'est la place d'un juif, le soir de Rosh Hashanah, d'être à la police? Tu dis oui, c'est de sa faute. Tu m'en fous de la faute, moi, ça change rien à la faute, t'as pas encore compris. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce qu'il faudra bien qu'un jour on grandisse. Ouais. Quand t'es sur la photo, c'est sur la photo. Maintenant, c'est ta faute, c'est pas ta faute, t'es sur la photo. Alors qu'est-ce que tu fais sur la photo? C'est quoi cet hashgaha? C'est que le bon Dieu, il a pensé que c'était bien pour toi, de manière symptomatique, d'être en garde à vue le soir de Rosh Hashanah. Ah non, c'est pas de ta faute, on s'en fiche. Un petit peu, non? C'est comme le pêcheur ou le poisson. L'autre, il dit, mais moi, j'ai rien fait, c'est le poisson qui a mordu. L'autre, il dit, mais moi, j'ai vu un verre de terre, j'ai mordu. Alors j'ai mordu, mais tu penses bien qu'un ver de terre, qu'est-ce qu'il fait en plein milieu? Le ver de terre, il est haut à la surface, le temps qu'il coule, ou au fond parce qu'il a coulé, qu'est-ce qu'il fait au milieu? Il reste au milieu. Donc tu vois bien, ça s'appelle un PAC, c'est-à-dire un piège à... Et tu as mordu, toi. On t'a proposé une embrouille, et tu as mordu. On t'a proposé une avéra, et tu as mordu. On t'a proposé un décolleté, et tu as regardé. Mais au lieu de dire, tiens, il y a un décolleté, tu aurais dû pleurer les larmes de ton corps, de dire, mais... C'est ça mon niveau qu'on me propose un décolleté? Moi qui finis le Daf Hayomi tous les jours? C'est ça qu'on me propose? Donc la gravité, c'est la hashgaha qu'on te propose. Ouais. Pourquoi on te propose une magouille? Pourquoi on te propose une bêtise? Pourquoi il te vient des pensées tordues? Pourquoi on te propose un business bizarre? Toi tu dis, tu sais, en ce moment c'est difficile de faire de l'argent cachère. C'est quand même bizarre que statistiquement, toutes les affaires qu'on te propose, c'est des embrouilles. Donc ça veut dire que tu es un embrouilleur. C'est ce qu'il y a marqué ici. Il dit, Osé misé derech ha'haim shelo. Il fait de cela son chemin de vie. Une fois, j'ai dit, je voulais raconter ça aussi. Mais chaque fois que j'y pense, ça me choque. Un gars, il est venu comme ça, un chalambaï. Et j'ai besoin de connaître le contexte de la personne. Ouais. Alors je dis, vous faites quoi dans la vie? Il m'a dit, je travaille. Je dis, dans quoi? Il dit, dans l'assurance. Ah bon? Je dis, vous êtes assureur? Il m'a dit, non, je... Il m'a dit, je crée une société. Je mets la grand-mère de Djerba, je la mets gérante. Après, j'achète du stock. Je loue un local. Je mets le stock dedans. Je prends une assurance et je mets le feu. Ah bon? Je dis, mais c'est la première fois que vous faites ça? Il m'a dit, non, c'est la 9e fois. Une histoire vraie, hein? 9 fois, il m'a dit, à chaque fois, je change de nom de société, je change de gérant, je change de truc. Une fois, c'est le fils, une fois, c'est le cousin, une fois, c'est le voisin, ouais. Et je lui dis, mais vous, combien vous gagnez quand vous faites ça? Il m'a dit, écoutez, je connais les assurances, je sais à peu près ce qu'il faut acheter, je connais les taux de remboursement. Je prends 100 000 euros en général. Je prends 100 000 euros, 110, 90 000, 100 000 euros. Tu fais ça? Je dis, mais une question idiote. Si au lieu de mettre le feu, vous vendez la marchandise, combien vous gagnez? Il m'a dit 100 000. Je dis, alors pourquoi vous ne la vendez pas? Il m'a dit, j'ai pas pensé. Mais non, moi je vous explique, moi je vous la raconte. Vous, c'est une blague pour vous rigoler parce que vous dites que c'est incroyable. Mais moi, il est en face de moi, le gars. Et je vois qu'il est sérieux. Donc j'ai réfléchi dans ma tête, parce que moi, j'ai... Toutes mes études de zoologie, je les ai faites directement en face des gens, d'accord? Donc, un zèbre, c'est un zèbre, ouais. Et moi, je réfléchis, je dis, le gars, mais Emmett, il pense qu'il va gagner de l'argent en faisant de la magouille. C'est qu'il n'a pas pensé à gagner honnêtement. Comme les gens qui, a priori, ils te disent, je ne veux pas de facture. Comme le gars qui, a priori, il ment, même pour rien. Comme le gars qui, a priori, il est convaincu qu'il sera plus heureux avec la voisine qu'avec sa femme. Comme le gars, a priori, qu'il est sûr que ses enfants, c'est des vrais, et les enfants des autres, c'est des gens bien. C'est des gens qui sont montés à l'envers. C'est-à-dire que quand ils ont mis le moteur là-bas chez Fiat, ils l'ont mis à l'envers. Donc quand ils passent la première, ils marchent en arrière. Parce que le moteur, il est monté à l'envers. Ça s'appelle ça. Osé misé derech ha-chaim shelo. Le gars, il est convaincu que quand il ment, on le croit. Le gars, il sait qu'il attend, mais il s'obstine jusqu'à l'enfermement, jusqu'à les nerfs, jusqu'à la crise, jusqu'à la gava, jusqu'à la haine. Mais t'es tendu, mais t'es malade, mais t'es méchant, mais t'es vicieux, mais t'es pervers. Et le gars, il te dit, c'est ma nature. Et avec ça, il te dit, attention, il faut m'aimer comme je suis. Hein. Rase mes chalons que je vais changer. Alors moi, je pose la question, est-ce que le gars, il n'est pas devenu un malais? Vous suivez ou... Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut aller chercher lutter contre Amalek? Ouais, mais que le Rabbi Cheskel Mishaï dit qu'il faut aller chercher Amalek qui est chez toi. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dans les Darim Dafnun Aleph, elle dit Toreva, c'est quoi Toreva? Tore Ataba. Toreva. Tore Ataba. Ouais, Tore, tu te trompes, toi, dedans. Ça veut dire quoi? C'est quoi quelque chose de dégoûtant, en vérité? Quand quelqu'un fait quelque chose de dégoûtant, ce qui est dégoûtant, c'est pas que le fait que la personne a fait quelque chose de dégoûtant, c'est pas la chose dégoûtante, c'est la personne qui devient dégoûtante quand elle fait quelque chose de dégoûtant. Ça veut dire que ce qui est dégoûtant, ça te définit à toi. Toré ataba. Oui. C'est que le dégoûtant, lui-même, il se met dans une situation où sa nature, elle a changé. C'est ce qu'il dit. Il dit que celui qui prend des poids, parce qu'il faut le faire, tu as un poids d'un kilo. Et tu passes tout l'après-midi du dimanche à le limer. Et tu le pèses jusqu'à ce qu'il fait 800 grammes. Donc il y a marqué un kilo, mais il pèse 800 grammes. Et après, quand tu vas dans le magasin, le gars il dit, tiens, tu vas à l'avance, tu lui piques ses poids. Après tu viens, tu dis, tiens, un kilo d'orange. Elle dit, ah, j'ai pas de poids. Tiens, j'en ai un mois. Donc soit pour voler en tant que client, soit pour voler en tant que vendeur. Alors il dit, le Rav Ram Shor, mais cette machashava, cette préparation, cette préméditation, elle est grave. Parce qu'elle donne la nature de la personne. Oui. Donc, mais après, toi, tu dois réfléchir dans tes actes à toi. Est-ce que tu es dans un esprit comme ça? C'est pour ça qu'il dit que le tikkun de Purim, oui, c'est la yashrut, c'est la droiture. Oui, la droiture dans la tête, la droiture dans la bouche, la droiture dans les actions, la droiture dans le business, la droiture dans la relation avec l'autre, la droiture dans la sincérité quand on parle, la droiture de ne pas faire des tarboulottes et de ne pas gérer des émotions et du stress pour pouvoir manipuler les gens. Il faut faire ça, c'est aussi le tikkun de Purim. Parce que si Amalek c'est le tordu, donc la mitzvah c'est d'être droit. Oui, maintenant, et cette droiture là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne la joie. C'est marqué au Leish Relev, Simcha. Et pour les gens qui ont le cœur droit, il y a la joie. D'accord ? Ça veut dire pourquoi les gens ils prennent des antidépresseurs? Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et parce qu'ils mentent. Et parce qu'ils trichent toute la journée. Et parce qu'ils embrouillent. Et parce qu'ils ne se réalisent pas. Et parce qu'ils ne sont pas Toro Kebaro. Donc comme ils sont mal, ils sont obligés de prendre. Alors s'ils ont de l'argent, ils prennent de la cocaïne. S'ils sont civilisés, ils prennent du Xanax. Et s'ils sont pauvres, ils prennent de la colle. Mais chacun va trouver une solution. Pourquoi? Pour ne pas être dans cette logique-là. Mais en vérité, la personne, quand elle a renoncé à la droiture, elle a aussi renoncé à la joie. Parce que la vraie joie... Ouais, toi, t'as confiance dans ta femme. T'es bien. T'as confiance dans ton mari. T'es bien. Tu sais que tes enfants sont sérieux. C'est bien. Tu sais que ton argent, il est cachère. C'est bien. Tu sais que ta voiture, elle est fiable. C'est bien. Tu sais que ta maison, tu t'es pas fait rouler. C'est bien. Tu vois, ça s'appelle Yashrut. Les Yishrelev, Simcha... Et le lève, c'est quoi? C'est l'intériorité de la personne. Et à kol noveh mihalev, tout vient du cœur. Donc quand le cœur est droit, tout ce qui va arriver ensuite va être droit. Maintenant, si toi tu es dans la droiture, alors tu as la simcha. C'est la différence entre la joie et le plaisir. Parce que la joie, elle vient de l'intériorité, et le plaisir, il vient de l'extériorité. Maintenant, l'extériorité, c'est la matière. Et la matière, elle a été créée. Et tout ce qui a un début a une fin. Par contre, la joie, elle vient de l'intériorité. Et l'intériorité n'a pas de début. Et comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est la différence entre je veux, qui est la loi de l'intériorité, et j'ai envie, qui est la loi de l'extériorité. Parce que c'est le corps qui a envie, et la neshama qui veut. Maintenant, quand toi tu dis je veux, ça veut dire je prends la neshama de l'énergie de l'âme, et je la mets dans quelque chose. C'est pour ça que la volonté, c'est pour les projets à long terme. Je veux devenir ingénieur. Je veux devenir Talmid Chacham. Je veux finir le chasse. Ça, c'est la volonté. Par contre, j'ai envie, c'est à court terme. Ouais. J'ai envie d'une glace. J'ai envie de manger. J'ai envie de toi. C'est court terme, c'est de la consommation. C'est pour ça que quand quelqu'un veut travailler avec toi, s'il te dit « je veux travailler avec toi », ça veut dire qu'il a compris que tu n'auras pas toujours des moments faciles, mais il va se battre. Mais s'il dit « j'ai envie de travailler avec toi », ça veut dire que tant que ça va, mais le jour où il y aura des problèmes, il va dire « j'ai plus envie ». Il n'est pas fiable. Maintenant, il y a trois facettes. Il y a « je veux », « j'ai envie », « attention » et « je dois ». Dites-moi « je dois », c'est la continuité de « je veux » ou la continuité de « j'ai envie » ? Pas du tout. Les gens qui font ce qu'ils ont envie, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils n'ont pas envie. Parce que « je veux », c'est la maturité. Et j'ai envie, c'est l'immaturité. Depuis quand le gars qui est immature, il va faire ce qu'il doit faire. Donc celui qui vit bien le devoir, c'est celui qui assume le jeu, veut. Mais celui qui vit mal le devoir, donc il dit, bon, alors je suis obligé de le faire. C'est ça ce qu'est en train de me dire. Et j'aime pas les obligations, j'aime pas les contraintes, j'aime pas les stress. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais ce que tu as envie. Mais si depuis le départ, tu fais ce que tu veux, mais pas dans le sens « je fais ce que je veux », au contraire, je fais ce que je veux parce que je sais que ça vient de mon sechel, je sais que ça vient de ma neshama, je sais que ça vient d'un projet divin, je sais que c'est important pour moi, je sais que c'est grâce à ça que je grandis. Donc je veux. Et bien de passer du je veux au je dois, c'est facile. Parce que c'est déjà la maturité. Mais quelqu'un qui dit je fais ce que j'ai envie, et ben j'ai pas envie, un jour tu lui dis tu dois, et bien tu dis non, je suis pas obligé. Non, qui a dit je suis obligé? T'as qu'à faire quoi? Pourquoi je suis obligé moi? Je suis pas obligé. D'accord, non. Donc le mal vécu de « je dois », il vient du bien vécu de « j'ai envie ». Et le « j'ai envie », c'est la matérialité. Et « je veux », en vérité, c'est l'essentialité et c'est la spiritualité. Donc Yaakov, il dit jamais « j'ai envie ». Mais Esav, il dit jamais « je veux ». T'as compris ou non? Toi, tu dois savoir où est-ce que tu es, toi. Et pour un minimum, ça. C'est très, très important. Je vous dis pourquoi c'est important. C'est pas seulement au niveau philosophique, tiens, Ben Chetrit vient de dire un truc intéressant, donc la continuité du je veux, c'est le je dois. Ça, c'est pas intéressant. C'est que si tu souffres dans ta vie, si tu trouves que c'est lourd la religion, si tu trouves que le mariage c'est difficile à assumer, si tu dis que ma femme est vieillie, si tu dis que les enfants ça prend la tête, si tu dis que les dettes j'en peux plus, c'est parce que tu es dans le j'ai envie, toi. C'est pour ça que tu crèves. C'est pour ça que tu crèves. Mais quand tu dis « je veux t'épouser », ça veut dire qu'elle va vieillir. Mais je vais continuer à l'aimer. Après, tu dis, ben, je veux travailler. Eh ben, des fois, c'est difficile, je sais. Mais à part comme j'ai accepté le je veux, après, c'est facile, le je dois. C'est bon ou non? C'est ce qu'il dit. Maintenant, le Gemoud Torah, c'est comme ça. Le Razonish, il dit, yesh rechek, mais yesh seder. Des fois, tu étudies parce que c'est le seder, eh ben, c'est l'heure d'étudier. Et des fois, tu étudies parce que tu as le plaisir à étudier. Ouais. Mais le plaisir, il doit venir de la volonté. Ça s'appelle en français la joie. Donc le plaisir qui vient de la volonté s'appelle la joie, mais le plaisir qui vient de la matérialité s'appelle le plaisir. Ça va? La fin là? À partir d'où? Parce que. Oui. En réalité, c'est quoi la différence entre la joie et le plaisir? C'est que la joie, elle vient de la neshama, et le plaisir, il vient du corps. Donc, et comme on a dit que l'envie, elle vient du corps, donc j'ai envie, ça veut dire que je cherche le plaisir. Et la joie, elle vient de la neshama. Donc je veux, ça veut dire que je veux la joie. Maintenant, je n'obtiens la joie que quand je fais ce que je veux. Par contre, j'obtiens du plaisir quand je fais ce que j'ai envie. Maintenant, le problème, c'est que le plaisir, il est à court terme. Et en plus, il exprime la satisfaction d'avoir. C'est parce que j'ai. Alors que le je veux, c'est la satisfaction d'être. Je suis. Il faut décider à partir de quel âge je pense que je dois être ou je dois avoir. Maintenant, les gens, ils confondent le verbe avoir et le verbe être. Ils disent, j'ai de l'argent, je suis heureux. C'est faux. J'ai des connaissances, je suis équilibré. C'est faux. Il y a beaucoup de fous qui ont des très grosses connaissances. Mais c'est des fous. Parce qu'ils sont déséquilibrés au niveau du mental. Donc leur connaissance ne leur a servi à rien à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, ici, ce qui est marqué, c'est que quand la personne, elle va écouter le mal qui est en elle, donc elle va écouter le Yetzirah qui est en elle. Mais si vous allez me dire, attendez, vous parlez de Amalek, après vous parlez du Yetzirah, mais vous faites des raccourcis un peu rapides. Mais on a déjà expliqué, mais je ne peux pas tout répéter à chaque cours, que l'ange de Esav, c'est le Yetzirah. Vous vous rappelez ou non? Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzirah. Mais le Yetzirah, il est aussi dans l'homme. Donc le Yetzirah, en vérité, c'est quoi? C'est la facette de Amalek qui est dans l'homme. Donc quand l'homme, il écoute son Yetzirah, en vérité, il s'assimile à Amalek. Or, rappelez-vous que Amalek, c'est la même gématria que Safek. Safek. Safek, ouais, Safek. Safek. Et le Safek, c'est le doute. Et le doute, c'est le contraire de l'affirmation. Maintenant, il y a trois genres de doute. Il y a le doute dans la connaissance, ça s'appelle l'ignorance, je ne sais pas. Il y a le doute au niveau affirmation personnelle, je n'ai pas confiance en moi. Et il y a le doute dans le regard de la réalité, que je ne comprends pas ce qui se passe. C'est les trois doutes qui existent. Ouais. Maintenant, le rapport avec la réalité s'appelle la conscience. Le rapport avec soi-même s'appelle la confiance en soi, s'appelle le respect de soi. Et le rapport avec la connaissance, s'appelle la connaissance. Maintenant, si moi, attention, je ne développe pas ma connaissance, donc je développe les doutes. Si moi, je ne développe pas la connaissance de moi-même, donc je n'ai pas le respect de moi-même, donc j'ai le doute en moi-même, ça veut dire que je dis, j'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, c'est trop difficile. Et si moi, je n'ai pas une lecture de la réalité qui est forte, et qui est claire, et qui est nette, alors je vais avoir le doute sur la réalité. Et ça, c'est quoi? C'est le rapport avec la réalité, c'est la volonté. Donc les gens qui n'ont pas de volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas une vision claire. Les gens qui n'ont pas de respect d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont des doutes sur leur capacité. Et les gens qui n'ont pas la connaissance, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre. Voilà. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il va toujours travailler sur les trois plans. Il va t'empêcher d'apprendre. Donc, dans la Torah, il va t'empêcher d'étudier la Torah. Et dans le rôle, il va te dire, non, laisse tomber les études, c'est pour les imbéciles. Toi, tu es un manuel, toi, tu travailles avec tes mains, toi, c'est facile. Mais tu peux travailler avec tes mains, mais développe ta tête. Oui, tu peux être un très, très grand intellectuel et faire un travail manuel, c'est pas grave. Par contre, quand tu n'as fait l'apprentissage que de tes mains, essaye de faire une équation. Tu n'arrives pas. Tu vois pas que le pizzaiolo, maintenant, il peut réfléchir à la tangente de la particule dans un espace éthéré qui n'est pas soumis aux pressions des différentes planètes. Et tu dis, non, je fais des pizzas. Je fais de la pizza. Mais le gars qui est professeur en physique atomique, il peut faire une pizza. S'il veut. Dimanche dernier, j'étais pas ce Shabbat, le Shabbat d'avant, j'étais à Marseille. Enfin, un gros Shabbat, incroyable. Et le dimanche matin, j'ai parlé avec un médecin. J'adore quand je rencontre des gens vraiment intelligents. Ce monsieur-là, il a fait 22 ans d'études de médecine. C'est un des spécialistes européens du cancer. À l'hôpital Adassa, il a tout un département, il a réussi à faire des enfants qui n'ont pas le sida avec deux parents qui ont le sida. Ouais. Très très fort. Et surtout très modeste. C'est très rare. Parce qu'en général, plus il frime, plus c'est qu'ils sont nuls. Mais quand il est tellement modeste, tu sais qu'il est vraiment rara. Bon, on a parlé un petit peu, et moi quand je rencontre un raham comme ça, je pose des questions. Ça m'évite de passer 10 ans à la fac. Le Shabbat d'avant, j'étais à Natania, j'ai rencontré là-bas le professeur Sahel, qui est un spécialiste de l'œil mondial. Maintenant, ils ont donné un campus entier aux États-Unis pour développer sur la connaissance de l'œil. Lui, il fait voir des aveugles. Et j'ai parlé avec lui de Rashi dans Kiddushin et dans Nida, aussi des Braïtod, et qu'est-ce que c'est l'œil, comment ça marche la vue. Mais c'est très intéressant. Il dit, mais quand tu vois une Chorma comme ça, quand tu vois une puissance comme ça, quand tu vois des intellectuels d'un tel niveau, et tu vois qu'il y a les Midot qui vont avec l'intellect. Ça, c'est Yaakov Abim. D'accord, oui ou non? Il faut que tu vois les Midot qui vont avec l'intellect. Parce que si quelqu'un il a un très grand intellect, mais qu'il utilise son intellect pour le mal, là tu vois Amalek. Maintenant, chacun d'entre nous, on lui a donné des outils. Maintenant, ces outils sont extrêmement puissants. Mais on peut les utiliser pour faire le mal ou pour faire le bien. Toi, on t'a donné la beauté, tu peux faire un Kiddush Hashem. Tu peux faire Kiddush Hashem avec ta beauté. Ouais. Toi, on t'a donné l'intelligence, tu peux être un grand pervers narcissique ou tu peux aider et trouver le virus contre la grippe. Ouais. Toi, on t'a donné de l'argent, tu peux t'en servir pour frimer ou tu peux aider des milliers de personnes. Chacun avec les moyens qu'on va lui donner. Mais la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire. La vraie question, c'est quelle tendance en toi tu as suivi pour faire cela ou pour faire cela. Maintenant, celui qui n'est pas en guerre contre Amalek, et vous avez compris maintenant, la guerre contre Amalek, ouais, c'est pas maintenant que toi tu vas prendre une mitraillette, tu vas rentrer dans une cité, tu vas essayer de chercher tous les turbans qui existent. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'on a dit que ce mal-là, il est nécessaire. Puisque Amalek, vous avez compris, c'est le conservateur d'Israël. Mais pourquoi vous mettez des conservateurs dans le gâteau? Parce que sinon, il est pourri. Donc le conservateur d'Israël, c'est l'Amalek. Parce que quand les bénis Israël s'écartent du chemin, on leur envoie Amalek. Et quand est-ce qu'ils s'écartent du chemin, les bénis Israël? Quand ils doutent. Et quand le juif, il doute, l'antisémite, il est sûr de lui. Et quand le juif, il est sûr de lui, l'antisémite, il doute. Donc vous voyez bien que c'est le pendant de l'autre. Après, le problème, c'est quoi? C'est le regard qu'on a sur la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sauveur et le mésauveur. Ouais. C'est-à-dire la cause et la conséquence. Et il y a une autre réalité, un autre regard sur la réalité qui s'appelle l'Asgara. Maintenant, comment je regarde le monde, moi? Comment je regarde le monde? Est-ce que je regarde le monde que la personne, elle attrape un virus et elle est morte? Ou moi, je dis non. En vérité, la personne, elle devait mourir parce que c'était sa date. Les souffrances qu'elle a eues, ça vient des avérotes. Et la maladie, c'est juste pour que j'ai l'envie de penser que ça puisse faire tout seul. Comment je vais regarder le monde? Est-ce que je vais regarder le monde comme une logique de cause-conséquence? Ou est-ce que je vais regarder le monde comme une logique de Hashgaha? Est-ce que je regarde la main d'Hachem dans chaque situation? Ou est-ce que je regarde la loi de causalité? Maintenant, quand c'est marqué Asher Karecha Baderer, qui t'a rencontré sur le chemin, il dit là-bas, Rashi, il y a trois lectures de Asher Karecha. C'est quoi? Milachon Mikre, le hasard. Milachon Kor, la froideur. Et Milachon Keri. Keri, c'est quoi? C'est la débauche. D'accord? C'est la semence qui est gaspillée. D'accord? Maintenant, Amalek, c'est exactement les trois facettes qu'il va utiliser pour détruire Israël. Avec certains juifs, il va aller par la culotte, par la débauche. Ouais. Avec certains juifs, il va aller par l'intellect. Il va leur dire, mais non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je crois pas que vous avez un cerveau, non? Regardez, on peut tout développer en science, on peut tout comprendre en mathématiques, on peut tout développer en physique. On n'a pas besoin du bon Dieu. Pourquoi tu as besoin de la religion? Ça sert à rien. Ça, c'est Milachon Mikre. C'est que tu regardes tous les événements comme des concours de circonstances, comme des orientations incroyables, comme des probabilités qui se mettent en place. comme des phénomènes, ce qu'on appelle des faisceaux de phénomènes qui communient pour créer une réalité. Ou non, tu dis Hakol Beyad Hashem. Tout est entre la main d'Hashem. Tout. Ouais. Même une feuille qui tourne, quand elle tombe dans l'arbre, les mouvements qu'elle fait, c'est entre les mains d'Hashem. Chaque vague, il y a un ange derrière qui lui dit truc. Chaque grain d'herbe, il y a un ange qui le fait pousser. Et un ange, c'est quoi? C'est un ration Hashem. Donc comment tu vas regarder le monde, toi? Que c'est des milliards et des milliards et des milliards de volontés d'Hashem qui font exister la réalité? Ou tu vas dire, non, le bon Dieu, il n'a pas que ça à faire. Même si tu crois en Dieu, tu dis, bon Dieu, il a créé le monde. Après, il a donné une autonomie aux règles de la nature. Les règles de la nature, elles s'autorégulent d'elles-mêmes. Donc on peut croire en Dieu et croire à la nature. On peut croire en Dieu et ne pas croire en la nature. Oui. Ou alors on peut croire en la nature et ne pas croire en Dieu. Comme on peut croire en Dieu et ne pas croire du tout en la nature. Donc après, c'est à toi de savoir exactement où tu te situes. Et si quelqu'un il va dire, bon, mais c'est une discussion philosophique que l'on peut avoir. Non, parce que l'orgue est d'ailleurs où il dit que, attention, parce que selon ta manière de penser, c'est comme ça qu'Hachem il va se conduire avec toi. C'est que si toi tu penses que le monde il fonctionne selon la causalité, toi tu vas rentrer dans la loi de la causalité. Si toi tu penses que ta parnassa elle dépend de la conjoncture, donc tu n'es pas lié à tes ma'asim, tu es lié au mazal. Le mazal c'est la conjoncture. Ben, la conjoncture est mauvaise. Donc tu vas déposer le bilan. Ou toi tu dis non. Non, en vérité, la conjoncture est mauvaise, mais moi, je n'ai pas une relation avec la conjoncture, j'ai une relation avec le bon Dieu. Et le bon Dieu, même au milieu de la crise, il peut organiser une micro-atzlaha pour mon magasin à moi. Mais il faut y croire, parce que ce n'est pas facile. Parce que tu regardes les infos, tu lis les journaux, tu vois les statistiques, tu vois toutes les sociétés qui déposent le bilan, tu vois que le produit il est mal placé sur le marché, tu vois que le dollar il a baissé, tu vois que les Chinois ils ont augmenté les prix. Alors tu es en train de te convaincre que ça va planter et grâce à Dieu, Dieu t'a écouté puisque ça s'est planté. Ou tu vois, tu fais le contraire, tu dis écoute, moi qu'est-ce que j'en ai à faire de la conjoncture? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la conjoncture? Moi j'ai une famille à nourrir. Je dois étudier à mi-temps et je dois avoir la tranquillité pour pouvoir étudier. Donc il me faut 122 000 euros par an pour vivre, qui se débrouille. Alors il est fait gagner comme ça, il est fait gagner comme ça, il est fait gagner comme ça, qui se débrouille, moi c'est pas mon problème. Mais si je dis non, il y a une loi de causalité, il y a une conjoncture, il y a une réalité physique, on ne peut pas y échapper, il y a le prix de l'or, il y a le prix de la main d'œuvre, il y a le prix du transport, il y a le prix de... Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors bon, j'ai dit, si vous m'avez sorti de la réalité, donc vous allez fonctionner avec la réalité. Si vous m'avez rentré dans la réalité, moi je vais m'occuper de la réalité. Alors tant que c'est des phénomènes qui ne nous impliquent pas trop, c'est pas grave. Et quand ça devient des phénomènes qui nous impliquent, quand c'est la santé, ou la santé d'un enfant, ou la santé de quelqu'un qu'on aime, et que le médecin dit il n'y a plus rien à faire, parce qu'il y a des métastases partout, t'as intérêt à croire en miracle. Ou tu vas dire non. Les médecins disent c'est foutu. Pourquoi le médecin décide? Vous comprenez cette logique là? Ça veut dire que ça peut faire des différences dans la vie. Des grosses différences. Mais dans cette logique là, cette proposition de regarder le monde selon la logique ou de regarder le monde selon la main d'Hachem, c'est la proposition de Amalek et la proposition de Yaakov. Ça c'était Mordechai et ça c'était Amal. Parce que Amal, il pense que les choses, elles se font toutes seules. Ouais. Quand il était un homme, c'est pour ça qu'il a fait un tirage au sort. Parce qu'il a dit, on va faire un tirage au sort, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc la question est de savoir, est-ce que la destinée d'Israël, elle dépend du tirage au sort ou non? Parce que la Gemara, dans Shabbat, elle demande, Yesh Mazal et Israël, ou El Mazal et Israël. Vous connaissez cette Gemara ou non? Ouais. La Gemara demande, est-ce qu'il y a un mazal à Israël, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une destinée, ou il n'y a pas de destinée? Alors c'est quoi la destinée? Il faut bien être clair, parce que les gens disent, oh, tout le monde sait, El Mazal Israël. Calmez-vous, ouais. C'est quoi le mazal? Le mazal, c'est la trajectoire préétablie de déplacement de la particule dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Par exemple, là. Vous voyez ça, ce morceau de métal, vous le voyez ou non? Vous le voyez?
Oui.
Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Donc vous le voyez. Maintenant, pour que ce métal soit là, il fallait qu'il y ait du minerai de métal. Avant qu'il y ait le minerai de métal, il fallait qu'il y ait une provocation au niveau chimique qui crée ce minerai de métal, avec des interventions au niveau naturel qui ont créé la mise en place de ce métal, avec des pressions extraordinaires, avec des chaleurs extraordinaires qui ont créé le métal, jusqu'à arriver à ce métal-là. Maintenant, ça c'est pour que le métal il arrive jusqu'ici. Maintenant, pour que le métal il reste du métal, il ne devienne pas autre chose, il faut aussi qu'il y ait une logique, ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Et un des éléments, le quatrième élément de la structure énergétique de la matière, c'est le temps. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans le temps, ce morceau de métal ne devient pas un oiseau? Vous dites, mais attendez, le rab, il a fumé ou quoi? C'est un morceau de métal, ça ne peut pas devenir un oiseau. Mais c'est faux. Je vous donne toujours le même exemple. Si je prends, voilà, il a rouillé. D'accord, il dit, écoutez, il a tout rouillé, c'est dangereux, il y a un petit vieux qui va s'appuyer, il va mourir. Alors d'accord, on le jette à la poubelle, on remplace par un œuf. Maintenant, celui-là qu'on a jeté à la poubelle, on l'a jeté dans une décharge. Alors, au bout de 100 ans, il est tombé en poussière. Cette poussière, elle est devenue des métaux ferreux, d'accord. Ils sont mélangés avec de la terre, on a pris cette terre, on l'a mis dans un jardin, on a planté un arbre. L'arbre, il a poussé, il a pris l'énergie de la terre, ça a passé dans la sève, c'est rentré dans la graine, et ça a été mangé par un oiseau qui a pondu un œuf. Et voilà que ce morceau de métal est devenu un oiseau. Maintenant, si ça prend 150 ans, tu dis que c'est la nature. Si ça prend une seconde, tu dis que c'est un miracle. Donc en fait, le miracle, c'est un regard sur la nature. Ça va? Maintenant, le tzaddik qui voit le miracle, il dit, tu veux un oiseau? Un oiseau. Bam! Mais l'homme normal, il dit, c'est du métal. C'est du métal. Je ne peux pas dire que c'est pas du métal. Donc il va falloir attendre 150 ans. Alors des fois, t'attends. Tu dis, tiens, j'ai 150 ans à perdre. Je vais attendre. Des fois, t'attends. Parce que tu es au bord du ravin et le petit, il a tombé. Donc il te faut un miracle. Comment tu vas faire? C'est ça le problème. Le problème, c'est que le mazal, il est obligatoire. Il y a toujours un mazal. C'est normal. Parce que comment veux-tu que ce bout de bois, il soit là, et que toi, tu sois là, et que ton corps, il soit là? Et t'as pris l'avion, il fallait bien quelqu'un qui conduise l'avion. Donc il fallait un mazal d'organisation de l'avion, il fallait un aéroport, il fallait une voiture pour t'amener, il fallait quelqu'un qui crée le moteur, il fallait quelqu'un qui le conduise, il fallait quelqu'un qui vende de l'essence, quelqu'un qui l'achète. Donc tout ça, ça fait partie du mazal. Donc le mazal, il existe. Alors ça veut dire quoi que les ministres ne sont pas soumis au mazal? Ça ne veut rien dire. Yesh mazal Israël, en mazal Israël. Bien sûr qu'il y a un mazal. Ouais, parce qu'a dit la Gemara. La Gemara a dit Yesh mazal Israël, aval al yede tshuva, ve al yede tfila, Adam yachol yatset ni mazalo. Par la teshuva et par la tefila, par la prière et par le repentir, un homme peut sortir de son mazal. Je comprends pas pourquoi spécialement le mazal. Moi j'aurais dit grâce à la télévision, grâce à la cocaïne. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un homme sort du mazal?
Si le mazal est négatif.
Ça change rien.
Si le mazal est positif.
Non, même ça aussi, même ça. Parce que par la prière aussi, on peut faire mieux. Alors je fais une coupe transversale. Voilà, vous avez une coupe. Ça c'est un homme, d'accord? Parce que comment c'est la vie? Il y a un homme, il y a la nature, et derrière la nature, il y a Dieu. D'accord? Et à l'intérieur de l'homme, il y a le corps. À l'intérieur, il y a le nefesh, le moi, le jeu. Et à l'intérieur, la neshama. Maintenant, donc si on fait une coupe transversale, ça fait comme ça. Ici, c'est l'homme. Ça fait la neshama, le nefesh, le moi et le corps. En face, la nature et Dieu derrière la nature. Maintenant, la neshama, elle est divine. Et Dieu derrière la nature, c'est Dieu. Qu'est-ce qui reste? Il reste la nature et le corps, qui sont eux de la matière. Et qu'est-ce qui reste? Le jeu. Vous me suivez ou? Voilà. Maintenant, la nature, en vérité, ça n'est qu'une projection de la volonté divine. Parce que c'est Dieu qui crée la nature, c'est Dieu qui crée l'événement, et c'est aussi Dieu qui crée le corps. Donc ça et ça, c'est encore entre les mains de Dieu. Donc qu'est-ce qui reste? Ouais. Il reste que le jeu. C'est le jeu qui va décider, est-ce qu'il est soumis à son corps et à la nature, ou est-ce qu'il va regarder au-delà de la nature. Maintenant, quand quelqu'un, il regarde au-delà de la nature, le magasin, il est mal placé. Le magasin, il n'a pas fait un centime. Le gars, il dit, c'est pas grave, animit palel, akadosh bokhu, chez Yavo Parnassa. Donc en vérité, il ne tombe pas dans le piège de la nature. Il regarde au-delà de la nature. Comment s'appelle regarder au-delà de la nature? La tfila. C'est ça la prière. C'est de regarder au-delà de la nature. Ouais. Le corps, il est malade. Mais le gars, il regarde, il dit, non, laisse tomber le corps, on va prier, on va allumer les vélos, on va allumer les malades. Ouais. Donc il regarde au-delà de la nature, c'est la prière. Le contraire aussi. Quelqu'un va dire, mais de quoi je suis capable? Mais je ne vois rien. Est-ce que je vais réussir? Je ne pourrais jamais faire. Pourquoi? Parce que j'ai fauté, parce que je suis tordu, parce que je suis mal dans ma tête, parce que j'ai des parents qui sont fous. Donc qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il reste avec lui-même. La Torah te dit, la chouve et la chaîne, tu reviens à Dieu. Maintenant, quand tu reviens à Dieu, Dieu n'est pas soumis à la nature. Il n'est pas soumis à ta nature à toi. Ça s'appelle en français la remise en cause.
La remise en cause.
La remise en cause. Je me remets en cause. Or, quand je me remets en cause pour Dieu, je suis obligé de me remettre en cause pour moi-même. Parce que dans 200 euros, il y a 100 euros. Quelqu'un te dit, tu peux me prêter 100 euros? Tu dis, non, j'ai que 200. Ah, excuse-moi. Celui qui a 200, il a 100. Ouais. Maintenant, celui qui est prêt à se remettre en cause pour Dieu, alors il peut se remettre en cause pour lui. De la même manière, celui qui veut se remettre en cause pour lui-même, il faut aussi qu'il remette en cause la relation qu'il a avec Hachem. Parce que le fond de la gaava, le fond de l'orgueil, c'est de l'idolâtrie. Le fond de la radinerie, c'est un manque de confiance en Dieu dans la part d'Assa. Donc tout ce que tu fais à l'intérieur, c'est un rapport avec Dieu, c'est un rapport avec toi-même. Ouais, si toi tu te répètes qu'il faut que je divorce, qu'il faut que je divorce. C'est-à-dire que tu penses que le bon Dieu, il t'est trompé de te laisser 25 ans avec une khmara. Alors que tout le monde sait que toutes les poubelles ont leur couvert. Poubelles ont un couvert. Les casseroles. Bon, non, parce que lui dit toujours, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. D'accord? La poubelle. Excusez-moi. Vous avez raison, enfin. Il rigole un peu, hein. Sinon, on croirait que c'est la réalité. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si moi, j'ai pas compris pourquoi est-ce que la réalité, elle est en face de moi, ça veut dire que je pense que Dieu, il dort. Je pense que Dieu est un bleu. Je pense qu'il n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Je pense que, je vous ai déjà répété, si c'est un accident, tu peux dire, si ça s'est fait une fois, tu peux dire que c'est un accident. Mais si ça dure des mois, et ça dure des années, c'est-à-dire que c'est un phénomène, et un phénomène, il est nécessaire. Donc qu'est-ce que tu vas gagner avec ce mari? Qu'est-ce que tu vas gagner avec cette femme? Comment tu vas grandir de cet enfant? Comment tu vas changer de la maladie? Comment tu vas sauver ton couple avec cette difficulté? Comment tu vas travailler ton honnêteté avec ce nouveau métier? Comment est-ce que tu vas changer de vie avec ce dépôt de bilan? Comment tu vas améliorer ton hygiène de vie avec cet arrêt cardiaque? Ou non? Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et je vous rappelle que la vie, moins on comprend, mieux elle explique. Et des fois, elle explique tellement bien qu'on voit que le gars, il a compris. Il est mort, mais on voit qu'il a compris. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu regardes la réalité, il y a un travail à faire. C'est que celui qui ne va pas travailler son côté Yaakov, celui qui ne va pas étudier la Torah, celui qui ne va pas développer sa prière, celui qui ne va pas améliorer son bitachon, celui qui ne va pas réfléchir à l'ashgacha, celui qui ne va pas voir les mains de Dieu, je te promets qu'il va commencer à penser comme Amalek. Effectivement, et la conjoncture, et les difficultés, et le prix du dollar, c'est ça ton problème. Parce qu'encore une fois, c'est des vases communicants, et un est des reflets de l'autre, d'accord? Donc si tu veux que le gars dans le reflet il soit beau, alors arrange-toi. Ouais. Si tu veux avoir une femme sympathique, alors sois sympathique. Enfin, un gars il est venu, il m'a dit, Rabbi Chetti, j'ai le droit de ne pas rentrer chez moi. Je dis pourquoi? Il dit, à chaque fois que je rentre chez moi, tout le monde fait la tête. Il y a une tristesse dans cette maison, j'en peux plus. Je ne veux plus rentrer chez moi. Je dis, mais tu sais pourquoi ils font tous la tête? Il m'a dit, non, c'est parce que tu rentres. C'est quand tu rentres avec ta tête de mort, tu mets une ambiance pourrie. Parce que les enfants, ils sont terrorisés. La maman, elle dit que ça y est, maman commence à crier. Après, tu fais des reproches à la grande. Après, tu fais des critiques au petit. Après, tu dis à l'autre qu'il est brève. Après, tu dis à ta femme, c'est trop chaud ou c'est trop froid. Il y a trop de sel. Donc, dès que tu rentres, c'est la mort. Je dis, c'est parce que tu es rentré chez toi que c'est la mort. Je dis, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Tu verrais l'ambiance qu'il y a. Tu devrais venir quand tu n'es pas là. Alors lui, il me dit, mais Ram, je ne peux pas venir quand je suis pas là. C'est quand je viens, je suis là. Je dis, non, tu devrais venir quand le brel n'est pas là. C'est quand tu n'amènes pas le brel et viens. Amène le souriant, amène le positif, amène le bitachon et tu vas voir comment ça va bien se passer. Mais si tu continues à amener le mshel, ne viens pas me dire, l'ambiance est pourrie. Comprenez ou non? Ben, toute la vie, c'est pareil. C'est si tu amènes Amalek dans ta vie, Après, tu dis, je ne vois pas la main de Dieu. Mais si tu amènes le bitachon, tu vois la main de Dieu. Donc, ce n'est pas une question culturelle ou intellectuelle de se dire qu'un, il dépend du mazal, et l'autre, il ne dépend pas du mazal. C'est toi qui vas te décider est-ce que tu vas rentrer dans cette logique-là. Et comme ça, il explique le Ramban dans le Chumash. Il dit, c'est exactement la nature de l'homme. Ça veut dire que la Ashgaha, d'accord, l'intervention divine de l'homme, elle dépend, entre guillemets, de l'intervention humaine de l'homme. C'est que plus moi je vais être en lien privilégié avec Hachem, et plus Hachem va intervenir de manière privilégiée. Mais si moi je pense qu'Hachem, il n'a pas que ça à faire, ou si moi je pense qu'au fond, culturellement, je sais que Dieu existe, mais dans ma réalité, je regarde quand même le taux du dollar, et j'ai quand même peur, et je vois les statistiques, et je vois combien des clients y rentrent, et je vois combien... Alors toi, tu t'es tellement rendu dépendant de la matière, que c'est la matière qui va décider de ton mazal. Et ça s'appelle le mazal. Donc, Yesh Mazal et Israël, mais je vous dire pire encore, mais ne prenez pas mal, hein. Le Sforno, qui est italien a priori, ouais, il a dit Rov Uma à Israël, Tahata Mazal. La majorité du peuple juif est soumis au Mazal. Donc, c'est pas seulement qu'il y a un Mazal obligatoire, d'accord, parce que tu vois bien la réalité, le matériel, l'avion, la ville, tous tes avis, c'est dans le Mazal, c'est la trajectoire de la matière. Et qu'à l'intérieur de la trajectoire préétablie du mazal, il y a une part de liberté qu'on appelle le libre arbitre. D'accord ? Tu vas épouser cette femme, mais est-ce que ça va être le bonheur ou le malheur ? Ouais. On va te donner tel et tel enfant, mais est-ce que ça va être. Tu vas l'éduquer comme il faut ou non ? On va te donner le magasin, mais est-ce que tu vas en faire un puits de bracha ou un trou de dépôt de bilan ? C'est-à-dire qu'il y a toujours un espace qui est libre et un espace qui est prédéterminé. Toujours. C'est normal. Maintenant, même ça, même cet espace qui est libre, quelqu'un, il peut le perdre. Et lui, il dit que ça s'appelle la majorité. C'est pour ça qu'il a dit que Baal Bechira, quelqu'un qui est détenteur du choix, c'est des gens qui sont rares. Pourquoi ? Parce que c'est tellement plus confortable de se laisser porter par la conjoncture que d'assumer ses choix. Comme c'est plus confortable d'accuser les autres que de regarder ses erreurs. Comme c'est plus confortable de se laisser porter par sa nature que d'aller à contre-courant de sa colère ou de ses nerfs ou de sa radinerie. Ouais. Comme c'est beaucoup plus naturel d'être attiré par ce qui n'est pas bon pour la santé que de prendre ce qui est bon. Je vous dis, une fois j'étais chez le nutritionniste, il m'a dit, écoutez, vous avez un petit problème de cholestérol, faut pas manger ça. Je dis, écoutez, en résumé, tout ce qui est bon, c'est ce qu'on n'a pas le droit de manger. T'as pas le droit de manger la charcuterie, t'as pas le droit de manger le sucre, t'as pas le droit de manger ce qui est salé, pas de cacahuètes, pas d'olive noire, pas de charcuterie, pas de viande grasse, pas de... Mais tout ce qui est pas bon, par exemple les haricots verts à l'eau, tu peux en manger 8 kilos. Tu t'en as même tellement marre que tu te dis, mais attends, mais ça me rappelle un guilgoule de vache. Tu es en train de mâcher tes haricots, là. Heureusement que tu sais que le bonheur est dans le pré, d'accord ? C'est-à-dire dans la proximité. Il dit, mais en vérité, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi tu es attiré par ce qui n'est pas bon pour la santé ? Ouais. Pourquoi tu es jaloux des gens qui ont gagné des milliards en volant ? Pourquoi tu es impressionné par des gens qui friment ? Pourquoi le mal, il est... Pourquoi ce qui est interdit, c'est plus attirant que ce qui est permis ? Pourquoi tu es convaincu que le vin qui n'est pas cachère, il est meilleur ? Pourquoi tu es convaincu que les vrais restaurants, les bons, c'est les restaurants qui ne sont pas cachères ? Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es convaincu de ça ? C'est bizarre, non ? Oui ? Vous allez dire, oui, mais dans la casse-coute, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas des bons restaurateurs, ils n'ont pas des bons chefs. Et puis le vin, il est cuit, alors il perd de ça. Et le fromage, ils n'ont pas mis de la présure de chien, c'est pour ça que... Mais pourquoi ? Pourquoi tu es convaincu que le mal, c'est le bien ? C'est bizarre, hein? Toujours, je donne cet exemple. C'est comme Shabbat d'après-midi. Maintenant, tu es en train de dormir. Et tu te réveilles. Tu verras comme ça. Tu regardes le plafond. Il rase à 5 heures. Il est 4 heures. Tu dis, ça va, j'en veux 3 quarts d'heure. Je suis bien. Puis, tu n'entends des pas dans le couloir. Il y a quelqu'un qui vient. Ta femme, ou ton mari, ou ton fils, ou tu sais pas, ou ta soeur. Ouais. Et au moment où la personne rentre dans la pièce, tu fais ça. Tout le monde a fait ça. Moi, tu dis, je vais être un peu tranquille. Ouais. Ou pour rien. Tu sais pas pourquoi. Mais le pire, C'est que l'autre, elle va se dire, David, lève-toi, viens étudier avec le psy. Chérie, lève-toi pour préparer ce de la chichi. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, vas-y, ben. Et en plus, il dit, oh, mais quoi? Pourquoi tu me réveilles? Ah, tu me fatigues, je n'ai pas le droit de me reposer. En vérité, tu dormais pas. Donc, non seulement, tu sais même pas pourquoi tu as menti, que tu as tourné la tête à faire semblant de dormir, mais après, tu t'en sers pour faire d'un prétexte pour faire la gueule. C'est bizarre, non? Maintenant, ce phénomène en lui-même, qui ne concerne personne, enfin, déjà, là, c'est pas du tout votre type de caractère, ouais. Si un jour vous prenez le temps, même aux toilettes, ouais, de réfléchir, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et pourquoi j'ai menti? Mais pourquoi? Pourquoi faire pour rien? Quand t'arrives en retard, au lieu de dire je me suis pas levé, tu dis ouais, il y a un avion qui s'est écrasé sur le via Washington. Pourquoi? En plus, ça se vérifie facilement. Tu dis des mensonges qui sont gros comme des immeubles, lourds. Ouais, pourquoi? Et ça, je t'ai dit pourquoi? Ça va?
Oui, il n'a pas fait Minha.
Mais allez-y. Non, mais Khadisha, je ne vais pas.
Sinon, on va faire la 8.
Ouais, j'arrive pas. Ah, mais pourquoi?
C'est 6h15, c'était.
Ah. Donc ça veut dire quoi? Une fois, il y avait un jeune barbour, un jeune qui avait craqué. Il commençait à faire des très grosses avérotes. Alors j'ai commencé à lui parler. C'était en Eretz Israël. J'ai parlé pendant 1 heure, pendant 2 heures. Il s'est mis à pleurer. Il ne me laisse pas tranquille, il m'a saoulé. Et j'ai vu l'ordre de Mitra qui arrivait. Et je voyais le soleil, j'ai dit, ça y est, le soleil va se coucher. J'ai dit, si j'arrête maintenant, ça va casser l'effet. Alors j'ai continué. Et j'ai raté Mitra. Après, j'avais tellement la main d'avoir raté Mitra, j'ai appelé un rave, je lui ai dit, rave, voilà, j'ai raté Mitra à cause de ça. Il m'a dit, c'est le plus beau Mitra que tu as fait de ta vie. Maintenant, j'ai pas fait Mitra. Ouais, mais pourquoi? Parce que Osek Mamizwa, pas Tomina Mizwa. Vers Otsela Sot Mizwa Veneinas, celui qui est en 14 majeur, on lui compte comme s'il l'a fait. Mais quand on dit on te compte comme tu l'as fait, c'est on te compte comme tu l'as fait, comme tu le ferais d'habitude, ou on le compte comme si Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait Mitra? On compte comme qui? Alors il dit on te compte le meilleur Mitra qui existe. Alors j'ai pas dit qu'il faut exprès rater Mitra, vous allez dormir. Ouais, mais quand c'est un cas de force majeure, c'est ça Osek Mamizwa, pas Tomina Mizwa. Bon, maintenant, est-ce que ce cours-là, il a un deal de Osek Mamizwa pour être patour? C'est pas évident. Mais c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. Ça veut dire que quelqu'un doit bien réfléchir. Ouais, il faut faire un auto-analyse. Et c'est ça aussi le moment de pourrir, de réfléchir. Parce que si on dit que Kippour, c'est Yom HaKippourim, c'est Kippourim, ouais, c'est-à-dire que ça vaut la paix. Ouais, dans les Mishnah Armanot, et dans le Matanot Laïvionim, et dans la lecture de la Megillah, et dans les Mishté. Mais en même temps, c'est pas grave de réfléchir. Vous savez que c'est pas interdit, pour un juif en tout cas, ouais, de réfléchir. Pas interdit, d'accord? Et de dire vraiment, c'est quoi Amalek? Combien Amalek il est rentré dans ma vie? Combien je pense comme Amalek? Avec le Dafayomi, avec la Gmara, et avec la perruque. Mais je dois réfléchir, je dois le faire. Parce que si Hachem, il a dit que la guerre contre Amalek, elle durera jusqu'à la fin des temps, ouais, et on a dit que cette guerre-là, c'est quoi? C'est le pendant d'Israël, et on a dit qu'un phénomène qui dure, c'est qu'il est nécessaire, ça veut dire qu'on a besoin de la guerre contre Amalek. Donc c'est pas qu'on a besoin seulement de l'agression de Amalek qui est symptomatique de notre écartement de la Torah. C'est aussi que nous avons besoin de faire la guerre contre Amalek pour grandir. Ouais, quand le médecin te dit, monsieur, pourquoi vous perdez la mémoire? Alors faites des mots croisés, utilisez votre cerveau, réfléchissez. Donc tu travailles la mémoire. Quand tu ne travailles pas la mémoire, tu perds la mémoire. Ouais. Quand tu travailles ton couple, tu n'as pas de problème de routine. Ouais. Quand tu es occupé toute la journée à dire merci, tu ne peux pas trouver des défauts. Parce que tu es occupé à voir le bien. Comment tu vas voir le mal? Ouais. Donc tu vois qu'ici, il y a une dynamique active et positive de faire. Et ça s'appelle la guerre de Amalek. Tu n'es pas obligé de regarder la guerre de Amalek seulement dans le côté négatif. Ouais. Tu peux dire mais que grâce à Amalek, on peut grandir. C'est pour ça que c'est marqué les Olam, Irgaz Adam, Yetzeratov, Keneged, Yetzerara. Qu'un homme doit toujours faire lutter son bon penchant contre son Yetzirah. Alors que moi j'aurais pu dire, mais pas du tout, Chas Veshalom. Mais quand Yetzirah est bien, oh, tu t'enfuis, tu pars en courant. Ouais, sur mes reins, écarte-toi du mal. Avec bon réach, mina vera. Il faut s'enfuir de la vera. Et si c'est marqué, tu fais la guerre. Alors je dis la différence. C'est pas que tu cherches. T'es pas fou non plus. Ouais, de te mettre sur la plage mixte et de dire tiens, je vais étudier la Torah. Non, je vais aller dans une boîte de striptease et je vais étudier la Kabbalah. Non, non. Non, tu vas pas. Tu vas pas. C'est pas la peine. Tu dis, je suis un tzadik. Elle est quand même mignonne. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est que toi, c'est quand elle va arriver la situation. Ouais. Est-ce que tu vas être dans une logique de fuite ou est-ce que tu vas être dans une logique de guerre? Alors tu dis, je veux grandir. Tu vois, j'ai un problème avec cet enfant. Alors j'ai deux solutions. Soit je vais dire à ma femme, tu te débrouilles. Soit je vais dire à ton mari, c'est ton problème. Soit je vais dire à l'école, c'est à cause de vous. Soit je vais dire, le bon Dieu, il veut que je grandisse avec cet enfant, je vais grandir. Et lui, il est le Kéli de mon Amalek à moi. Vous me suivez ou non? Et là, j'ai un problème avec un client, c'est que je sais que je dois faire un travail au niveau de mon Amalek à moi. Parce que c'est un problème d'honnêteté, c'est un problème de donner du crédit, c'est un problème de juger du bon côté. Mais j'ai un travail à faire avec ce Amalek là qui est ressorti grâce à ce client et grâce à ce voisin et grâce à cette personne que j'aime ou grâce à cette personne que j'aime pas. Maintenant, quand moi je vais faire ce travail-là, de mettre en situation d'utiliser ce Amalek, oui, alors d'un seul coup, ça va dévoiler des choses incroyables chez moi. Oui, et ça, c'est ça qui fait sortir du mazal. C'est quoi le mazal en vérité? C'est la nature. Maintenant, quand quelqu'un il suit la nature, il n'y a pas de différence entre suivre les lois de la nature, que la glace, elle fond quand il fait chaud. Ça va?
Non, parce qu'il prend beaucoup de contrôle.
Oui, mais je vous explique. Ça, c'est un malais. Non, c'est pas grave. Maintenant, peut-être que votre mérite, il n'est pas de... Peut-être que votre mérite, il n'est pas de l'enseignement que vous allez apprendre. Peut-être que votre mérite est de la lutte que vous avez pour rester concentré. Donc, c'est fini l'envie, on n'est que dans la volonté. Non mais je vous explique la logique. Une fois j'ai fait un cours, il y avait un chien dans la salle. Ouais, une fois la sono elle a sauté. Une fois il y a eu un début d'incendie. Une fois il a fait une crise d'épilepsie au premier rang. Ça veut dire que le Satan il fait son travail. Alors, si aujourd'hui on vous dit, comme moi par exemple, je me concentre, dès qu'il y a le bruit, mais moi je dis c'est pas grave. Amalek aujourd'hui c'est la déconcentration. Et je vais faire le travail. Et vous, Amalek c'est le bruit, mais vous faites le travail. Maintenant, quand vous êtes dans une logique comme ça, ouais, même dans les choses que vous aimez, même dans les gens que vous aimez, à plus forte raison quand vous n'aimez pas, ouais, parce que maintenant ton fils il t'énerve, parce que tu sens qu'il est de mauvaise foi. Mais toi tu parles pas avec le côté mauvais de ton fils, tu parles avec le bon côté. Donc tu parles pas avec le Amalek de ton fils. Parce que si tu le casses, tu renforces le Amalek de ton fils. Alors le mec de ton fils, il dit, t'as vu, ton père, il t'aime pas. Alors automatiquement, il va continuer à plonger. Mais si toi, tu luttes contre ce Amalek-là, donc tu vas donner le côté positif à ton fils, alors automatiquement, le côté positif, il va se renforcer. Et lui, il va lutter contre le Amalek qui est en lui. Il dit, non, c'est faux, mon père, il m'aime. Regarde la preuve, la patience qu'il a avec moi. T'as compris ou non? Donc en vérité, toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est une guerre contre Amalek. C'est ça. Midor. C'est ça. Mais c'est même quand tu dors. D'accord? C'est-à-dire que c'est sans arrêt. Et là, tu luttes contre les mauvaises pensées. Et là, tu luttes contre les pensées négatives. Et là, tu luttes contre la vera. Et là, tu luttes contre la haine. Et là, tu luttes contre la rancune. Tu dis, Marco, on est tout le temps en lutte. Tout le temps en lutte. Alors, je vous donne la règle. C'est facile. Je disais tout à l'heure que le je dois, il vient du je veux. Ouais? Eh bien, au début. Comme quand vous avez appris à faire les halot, vous rappelez, vous avez dit, tiens, je vais faire les halot avec à 3 traits là, d'accord? Mais c'est compliqué, alors c'est la gauche, la droite, le milieu, la droite, la gauche, là-bas. Ça c'est au début. Et maintenant, au téléphone avec ta belle-sœur, mais non, alors j'ai oublié. Alors comment tu fais? Tu sais comment tu es arrivé là? Tu sais pourquoi? Parce qu'au début, ben, c'est un apprentissage, et après ça devient intuitif. C'est pas au début. Au début, tu dis, j'ai rendez-vous avec le client. Alors attention, je le paye tant, je gagne tant. Alors je vais prendre lui faire 25, mais pas plus. Attention, il faut que je sois sympa. Attends, arrange la cravate. Après. Et après, ça devient naturel. Bonjour, comment ça va? Ah, c'est vos enfants sur la photo. Ah, vous faites du ski? Ah, moi aussi, j'adore le ski. Ah, tiens, quel temps il fait? Ah, bah écoutez, on a passé un moment. Oh, il y avait du monde sur la route. Tiens, à part ça, au fait, je vends des produits. Ah, mais bien sûr, asseyez-vous. On prend un café. Hop, tu l'as vendu. Si t'as compris, tu n'es pas stressé dans la chose. Maintenant, au début, c'est mécanique. Et après, ça devient intuitif. Ça va? Oui ou non? Ben, c'est exactement pareil. Toi, la lutte contre l'Yetzer Hara, encore une fois, si au départ, tu as dit je veux être un tzadik, c'est facile après de faire ce que tu dois faire. Parce que d'être un parent, ça pèse pas. C'est pourquoi? Parce que tu aimes tes enfants. Donc pourquoi ça te pèse? Parce qu'au fond, tu les aimes pas. Au fond, tu les aimes pas. les as pas. Tu n'as pas inclus dans l'amour les cris, les bruits, les nerfs, les dimanches après-midi, la promenade au parc, le vomi, la diarrhée. Tu ne l'as pas inclus dans l'amour, c'est ça ton erreur. Mais si tu avais dit je les aime, ouais, quels qu'ils soient, comment ils sont, parce que c'est mes enfants, après c'est facile de faire ce que tu dois faire. Alors je te dis, la lutte contre Amalek, tu le prends comme une volonté de grandir. Mais après, eh ben ça devient même ton devoir, il devient un plaisir. C'est pour ça que tu vois que les gens qui font du sport, plus ils font du sport, plus ils ont envie de faire du sport. Tu dis, mais c'est pas possible, il doit être épuisé, il a une pêche du tonnerre. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, les businessmen, le matin, une heure avant la prière, ils vont faire du sport. Le gars, il arrive à la prière, il a le cerveau qui est oxygéné, il a le corps qui est en mouvement, il fait une super prière, après il rentre au travail, il a une pêche. C'est normal, il doit tirer 74 employés. Ouais, mais s'il traîne au lit le plus tard possible, il se couche tard, ouais, il se lève tard, il arrive à la prière, à moitié dans le coma, il arrive au travail, la secrétaire, elle dit, tu as 14 ans payé, 2 prud'homme, le fournisseur, il attend devant la porte, le gars, il dit, oh, j'aurais dû mourir hier. Parce qu'il n'est pas venu pour gagner, il est venu pour perdre. Donc s'il est venu pour perdre, ça veut dire que Amalek, il a déjà gagné. Mais lui, c'est pas seulement qu'il fait la guerre contre Amalek, c'est qu'il se sert d'Amalek pour grandir. Donc lui, il voit que des signes, il voit que des miracles d'Hachem. Même une bêtise. Voilà, il trouve une passe pour se garer, Dieu est grand. D'accord ? Après le truc, je vous dis, quand j'étais à Marseille, c'était un Shabbat très dur. J'étais court vendredi soir et Shabbat matin à des jeunes. Après Souda Chichit, il y avait 600 personnes dans la synagogue. J'ai fait chaud à Marseille. Après samedi soir, il y avait un dîner avec 50 couples, que pour le Shalom Bayit, que des jeunes de 25-35 ans. Et après dimanche soir, j'avais encore un couple avec 250 jeunes. Donc c'était la limite de l'évanouissement. Et dimanche, Shabbat midi, j'ai dit au le gars qui est à côté de moi, ce grand docteur là, j'ai dit, écoute, je sais pas ce que j'ai des chevilles un peu truquées. Il m'a dit quoi ? Demain je m'occupe de toi. Moi j'ai pas compris. Non, demain il m'attrape, il m'a dit viens avec moi. Il m'a amené à l'hôpital, il m'a fait les urines, il m'a fait le sang, il m'a fait. C'est un grand laboratoire de cancer. En une heure, il y avait tous les résultats. Et lui, c'est le patron. Vous me sortez ça. Après, il m'a dit, mais tu peux voir tes trucs là, ben, t'as les gencives qui sont rouges. Il appelle son genre. Il lui dit, où tu es ? Il dit, je suis au cabinet. Je t'amène le ramène chez toi. Il m'a soigné. Il m'a fait la radio, il m'a fait les trucs, il m'a fait préparation pour aller voir le gars, il m'a tout donné. Ah, j'ai dit à ma femme, pourquoi j'étais venu pour faire des cours ? Elle m'a dit, c'est normal, comme toi, tu n'as pas le temps de t'occuper de toi, le bon Dieu, il s'occupe de toi. Alors moi, je vais trouver un rendez-vous. Le dimanche, il te fait les analyses, il te fait le truc, il te fait la consultation, et l'autre, il te fait le dentiste, il te fait le dentiste, et le cardio, le même jour, en 2 heures. Tu sais pourquoi ? Moi, tu crois, parce que le mérite, hein, c'est Dieu il t'aime, Dieu... Non. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu es refuge dans ce que tu fais, Dieu, il est refuge avec toi. Ouais. Toi, tu t'occupes des gens, Hachem s'occupe de toi. C'est comme ça. Hein. Donc toi, tu peux créer la dynamique positive. Maintenant, si toi tu dis, ah, tu sais, c'est pas évident, les mises, ah, ça me fatigue de m'occuper. Et puis chacun son mazal. Et moi, j'ai pas la tête de m'occuper des trucs. Et puis moi aussi, j'ai mes problèmes. Et moi aussi, j'ai mes enfants. Et moi, alors toi, tu t'enfermes à l'intérieur. Donc tu sors de la dynamique. Parce que l'engrenage, il entraîne. L'engrenage, il entraîne. Mais quand tu sors l'engrenage du système, il n'entraîne pas. Tu dis, j'ai plus d'obligation. Mais il n'est pas entraîné non plus. Voilà. C'est comme si tu sors du marché. Tu es obligé d'aller au salon, tu es obligé d'envoyer les cartes, tu es obligé de donner les échantillons, tu es obligé de rencontrer les clients, tu es obligé. Tu dis non, j'en ai marre, Dieu est grand, s'ils viennent, s'ils viennent pas, ils viennent pas. Bon. Écoute, les seuls clients qui sont obligés de venir, malgré qu'ils n'ont pas envie de venir, c'est quand tu vends des cercueils. Ils vont venir. Bien qu'ils ne sont pas obligés de venir, mais ils vont venir. C'est normal, tu vends des bons funèbres. Ouais. Mais la vie, c'est pas comme ça. Les cercueils. Ouais. Ils veulent pas venir, mais ils vont venir. Tu vois sur leur tête qu'ils veulent pas venir. Mais ils viennent quand même, oui. Et cette logique-là, c'est quoi ? C'est ça le bazar. C'est que toi, si toi tu t'inscris dans une logique positive et active de Emouna, tu avances. Mais cette émouna et ce bitachon, c'est exactement le contraire du doute. Or, rappelez-vous que la force de Amalek, c'est le Safek. Donc, quand toi tu doutes, parce que tu augmentes au niveau de la science, mais tu baisses au niveau de la Torah, on n'a pas le dit que tu n'as pas le droit d'étudier la science. Ouais, mais tu ne peux pas avoir un niveau de science très fort et un niveau de Torah nul. Parce que sinon, tu vas être charmé par la science. Tu vas la Torah, elle est débile. Il y a un livre qui s'appelle La science de Dieu. Vous ne l'avez pas vu celui-là? C'est un très très grand scientifique, un physicien de renom mondial, qui se trouve accessoirement être juif et en plus rachab. Et il te fait des démonstrations qu'il n'y a pas de contradiction entre la science et la Torah. Mais à très très haut niveau. Ouais. Et lui-même, il le dit, souvent les rabbins, ils prennent des petits journaux comme ça et ils font des développements de science. Alors qu'ils connaissent la Torah, mais ils ne connaissent pas la science. Et des fois, les scientifiques, ils ont un complexe de dire comment la Bible, elle a pu répondre à des questions qu'on a mis 3000 ans pour comprendre. Alors qu'en vérité, la Bible l'avait déjà répondu, puisque la Bible, elle était à l'origine de la matière. Donc, elle était à l'origine de la science. Donc, les deux regards, ils se trompent. Maintenant, si tu fais le contraire, maintenant, le problème, c'est ça. C'est que quand toi, tu vas apprendre à avoir ce regard-là, ouais, ce regard que quoi ? Que dans la réalité, qui est entre guillemets la réalité, tu vois Dieu dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah. C'est que la Megillah, c'est le seul livre des 24 livres de tout le Tanakh où il n'y a pas le nom d'Hachem. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est toi qui dois le voir. C'est toi qui dois le voir. Et on dit c'est pour ça que la Megillah, elle restera jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, le vrai problème du juif, c'est qu'il n'arrivera pas à voir Dieu dans la réalité. Et quand il ne voit pas Dieu dans la réalité, elle se déroule comme une Megillah. Mais comme il ne voit pas Dieu, ça devient la Megillah de Leicester. 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 Ça se dit en anglais, ça ? Ouais. Parce que Esther, c'est Esther Panim. Ouais. Et c'est quoi Esther ? C'est le côté caché. Maintenant, le problème, c'est que la vie, c'est un miroir. Et quand toi, tu ne vois pas Dieu dans la réalité, ouais, effectivement, Dieu n'intervient pas. Tu meurs si Dieu n'intervient pas. Alors quoi, ça existe des endroits où il n'y a pas Dieu ? Non. C'est qu'avec toi, Dieu ne va pas intervenir. Comment il n'intervient pas ? Alors, il y a deux lectures, on l'a dit. Soit il y a une vision globale de la réalité, soit une vision personnelle. Maintenant, quand toi, tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu, il a une relation personnelle avec toi. Mais quand toi, tu as une vision globale de la réalité, Dieu, il a un regard global sur toi. Il s'appelle Ashgacha Klali, Ashgacha Pratit. Est-ce que Dieu va s'occuper de toi personnellement ? Personnellement ! Ouais, tu vois la petite vieille, elle sort dehors, hop, le monsieur vient et dit « Ah madame, je vous aide à remonter les sacs. » Mais lui, il sort celui-là, tu sais pas. Ouais, après il dit « Comment je vais aller jusqu'à la voiture ?» Hop, il se regarde devant. D'accord, après il arrive, le médecin, il le voit dans le couloir. « Ah, vous êtes là ? C'est pas la peine d'attendre. Rentrez madame. » Mais en réalité, c'est bon Dieu s'occupe d'elle. Parce que la pauvre, elle a perdu son mari, ses enfants, ils habitent loin. Donc Hachem, il va s'occuper d'elle. Il s'occupe au détail, près. Ouais, il s'occupe, parce qu'elle est seule, et elle a une émouna, elle dit « Dieu, je t'en prie, je suis seule, je ne vais pas embêter mes enfants. » Le bon Dieu s'occupe d'elle, parce qu'elle, elle est avec Hachem. Alors Hachem, il est avec elle, c'est un effet miroir. Mais le miroir, il a un défaut aussi, c'est que quand tu t'éloignes du miroir, le reflet devient petit. Alors les gens disent « Ouais, Dieu, il est loin de moi, Dieu, il est loin de toi. » Mais Dieu, il ne peut pas être loin de toi. C'est toi qui t'éloignes de lui. Cette logique, c'est ça. C'est que toi, tu dois lire la Megillah, et dans la Megillah, tu dois voir Hachem. Tu dois voir comment Hachem il a fait les circonstances, comment Hachem il a organisé les choses, comment les choses elles sont passées exactement au bon moment, de la bonne manière, dans le bon ordre, avec la chronologie, avec l'implication de chacun, avec les rôles de chacun. C'est incroyable que tu vois que la main d'Hachem. Mais il n'y a pas écrit le nom d'Hachem. Voilà. Alors on arrive dans une génération où la science, elle est prioritaire sur la morale. Et qu'il est interdit d'être moral. Oui. Et que la débauche, elle est prioritaire sur la logique et sur la science. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a raconté ce médecin ? Vous avez le temps là ou non ? Écoutez bien ça. Lui, c'est un spécialiste des maladies qui se transmettent par sexuellement. Vous voyez ? Et vous savez que le sida, ça ne se transmet pas en jouant au Rubik's Cube. Ouais. Alors maintenant, ils ont trouvé un médicament qui permet que les personnes, ils ont une relation sexuelle sans protection et ça, ils n'ont pas le sida. Maintenant, ce médicament, il coûte 500€ par mois à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, elle rembourse 500€ pour que la personne, elle puisse avoir des relations non protégées, d'accord ? Et qu'elle n'attrape pas le sida. Maintenant, lui, ce médecin, il est en guerre avec la ministre. Il m'a dit, il parle avec la ministre, lui, il est très très haut niveau. Il est en guerre, pourquoi ? Parce que le problème, c'est que ce médicament, il évite le sida, mais il n'évite pas toutes les autres maladies qui viennent par la relation sexuelle. Et il y a des centaines d'hépatites qui viennent par la relation sexuelle, mais qui ne viennent pas, mais qui ne sont pas protégées par ce médicament. D'accord ? Donc, on résume. Maintenant, lui, il m'a dit, moi, je fais des ordonnances à 140 000€. Parce que les traitements pour les hépatites, c'est très très cher. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Maintenant, pourquoi le gars, il est malade ? Parce qu'il ne s'est pas protégé. Mais la sécurité, elle va rembourser. Maintenant, pourquoi la sécurité sociale ? Au lieu de dire à quelqu'un, « Eh ben, tu veux mourir, meurs ! Ou sinon, protège-toi » Elle dit, « Non, tu ne te protèges pas, parce qu'au nom de la liberté, tu n'es pas obligé de te protéger. Mais nous, la société, on va payer. » D'accord, oui ou non ? Et ça coûte des centaines de millions d'euros des gens qui attrapent des maladies par des abus sexuels qui sont remboursés par la sécu. Maintenant, lui, il démontre par des statistiques et par des analyses et tout ça que scientifiquement, c'est un non-sens. Parce que les gens, quand tu leur permets de ne pas se protéger et que tu leur donnes de l'argent pour qu'ils ne se protègent pas, en fait, ils attrapent les autres maladies. Ils ont prouvé aux États-Unis, il m'a montré des statistiques de Boston, comme quoi c'est comme ça, que les gens, quand ils ne se protègent pas, automatiquement, ils attrapent les autres maladies. Mais ils attrapent pas le sida parce qu'ils ont un médicament pour ça. Vous me suivez ou non ? Mais si tu réfléchis, tu dis, on est fous, nous. On va payer 140 000€ par mois un traitement à quelqu'un qui n'a pas voulu mettre un petit truc en plastique sur lui. Parce qu'il veut faire des choses. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il m'a dit, tu crois, écoutez-moi bien ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu crois que les gens à qui je fais les ordonnances, tu crois que c'est des junkies des cités ? Tu crois que c'est des voyous ? C'est des grands patrons du 440. C'est des artistes. C'est des scientifiques. C'est des grands responsables universitaires. Il m'a dit, mais la semaine, tu les vois, costard cravate, grand patron, 5800 employés, et le week-end, il m'a dit, des animaux. Et Ria, je ne peux pas te dire ce qu'ils font, pourquoi ils attrapent des maladies pareilles. T'as compris ou non ? C'est-à-dire des hommes et des femmes et des chiens et des animaux. Il m'a dit comme ça. Non, mais c'est un grand médecin, oui. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, si des grands patrons, ils se conduisent comme des chiens, ils veulent pas se protéger parce que c'est trop fort. Ils ont plus de plaisir et ils attrapent des centaines de maladies qui coûtent des centaines de millions d'euros, que des scientifiques les suivent et que des états y payent, c'est tellement énorme que ça peut être cavalé. C'est pas rationnel. Je sais pas si vous me suivez. Si ils sont en train de faire des économies, genre, maintenant, on va faire payer par les entreprises, par les employés. Mais voilà les mecs, on leur donne des centaines de millions d'euros parce qu'ils se conduisent comme des chiens. Mais qui crève ? Le mec qui veut mourir, qui meurt ? Non, la société a dit, la liberté, c'est d'assumer les erreurs des gens. C'est la liberté. Et en plus que lui, il m'a expliqué, parce qu'il connaît très bien la politique, il m'a dit, tout ça, c'est le lobby des homosexuels qui provoque ça. Donc t'as un petit groupe de personnes qui ne sont pas nombreuses, mais qui arrivent à influencer des gouvernements, qui eux-mêmes influencent des politiques médicales, qui eux-mêmes influencent des déficits gouvernementaux et nationaux sur la base d'une dérive. Donc t'as compris que Amalek, c'est la débauche, c'est Kerry. Renaud. Maintenant qu'est-ce qu'il fait ? On a dit Amalek c'est Kerry, c'est la débauche. Mikré, c'est le hasard, c'est-à-dire le regard du monde selon la science. Et c'est la froideur. Et bien tu remarqueras que ces gens-là, dans la Torah, ils sont froids. Souvent les religions, c'est des bêtises, c'est l'opium du peuple. Ils n'ont pas le kiff du Shabbat, ils n'ont pas l'investissement des téfilines, ils n'ont pas la chaleur de la Torah. Donc comme ils ont enlevé la chaleur de la Torah, et ils ont tout basé sur la froideur de la science, et tout ça pour justifier la débauche, parce qu'en fin de compte c'est pour pouvoir se conduire comme des animaux qui se servent des arguments scientifiques. Comme je disais, quand ils avaient fait la loi du mariage pour tous, ouais. Mais c'est quoi le mariage pour tous ? Ça veut dire qu'on peut se marier entre des hommes et des hommes et des femmes et des femmes, d'accord ? Mais ça, en vérité, en réel, ça correspond à combien? Ça ne correspond même pas à 0,3% de la population française. Mais ils ont quand même réussi à faire voter une loi au nom de la liberté. Mais la loi, elle est votée par la majorité. Mais comment des gens qui représentent la minorité, ils ont pu se servir d'une loi qui a été votée à la majorité pour imposer à la majorité? Donc en fin de compte, c'est une minorité qui utilise la loi de la majorité pour imposer à la majorité. Donc elle ne sert plus à rien, la loi de la majorité, puisqu'il y a des lobbies. Parce que les lobbies, ils vont mettre la pression chez les députés, et les députés qui représentent le peuple, ils vont voter. Alors moi je te dis, la perversion que le groupe d'Homo, il a, pour aller pourrir la tête des députés, pour qu'ils arrivent à pourrir la loi. Mais ça, je te dis, pour moi, Béhémet, c'est Amalek. C'est Amalek. Vous suivez ou non? C'est Amalek. Comme ils ont fait maintenant la théorie des genres, ouais. Dans les écoles, on ne veut plus dire les garçons et les filles, parce que c'est sexiste, d'accord? Donc il faut dire, il n'y a plus de filles, il n'y a plus de garçons. Mais quand il n'y a plus de filles, il n'y a plus de garçons, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que les gens, ils se moquent des filles, qu'elles sont des filles? Elles ne veulent pas qu'elles les rabaissent? Et tu veux pas que les garçons, qui ont des tendances féminines, on les traite d'homosexuels? Tu sais ce que tu as fait? En ne cassant, en ne fixant pas la gravité de l'homosexualité, tu sais ce que tu as fait? Tu as castré tous les autres qui ne sont pas homosexuels. Puisqu'ils sont devenus homophobes. Vous avez compris, non? Cette logique-là, elle est évidente. C'est évident. Mais c'est des professeurs de pédagogie, c'est des ministres de la culture, c'est des ministres de l'éducation. Vous vous rendez compte que les ministres de l'éducation, ils ont donné la permission à des associations de défense de l'homosexualité de rentrer dans les écoles pour faire des conférences. Que si toi tu veux faire une conférence de religion, tu n'as pas le droit parce que l'école elle est laïque. Mais si tu veux faire des conférences pour expliquer que les filles et les garçons c'est pareil, et que si un garçon est homo, une fille elle est lesbienne, c'est pas grave, t'as le droit de le faire. Je dis, mais ça, pour faire rentrer ça dans les écoles, c'est-à-dire que celui qui met aujourd'hui son fils à l'école publique, il peut déjà acheter des jupes à tous ses garçons. C'est ce que toi tu trouves énorme. Pour eux, c'est la manière de penser. C'est ça ce qui est marqué. Osé, misère, derrière chez l'eau. C'est-à-dire que le tordu, il est devenu la manière de penser. Comprenez ou non? Mais moi, je ne parle pas de la politique maintenant. Moi, je te dis, prends du recul et dis-moi si ça vient de Amalek ou si ça vient de Yaakov. Est-ce que ça vient du bon sens ou est-ce que ça vient de la Touma? Dis-moi, réfléchis bien. Et tu verras que ce n'est plus un problème de religion ou alors que ce n'est qu'un problème de religion. Vous avez compris l'idée ou non? C'est que si quelqu'un il n'a pas cette vigilance, si quelqu'un il n'a pas ce regard, lui-même il ne va pas se rendre compte s'il est rentré dans la Amalek. Lui-même. Parce que toi tu dis, bon, tu sais, on est tous des créatures du monde, et Dieu il a créé tout le monde, et Dieu il aime tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire quand ton fils il va t'amener Christine? Tu vas dire à la pauvre, elle est gentille, elle a toutes les qualités, juste elle a un petit problème. Après, tu dis, bon, si elle veut se convertir, c'est bien, mais on ne va pas la forcer. Mais elle ne veut pas. Alors on l'attend, l'autre il l'attend. Elle dit, elle ne va pas se convertir, elle ne se convertit pas. Après des années, elle passe, elle va être... Après, il se marie, après les enfants, ils sont goy. Après, il dit, comment on va faire? Après, il veut convertir les enfants. Après, l'enfant, il dit, maman, je suis pris parce qu'il y a mon père qui est comme ça, ma mère qui est comme ça. Après, c'est difficile. Après on ne peut pas faire le Shabbat parce que ça choque l'autre. Après, il faut faire l'arbre de Noël en même temps que la Hanoukia. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu lui as pas dit, ferme ta gueule. T'es juif, non? T'es juif, tu viens de 3000 ans de génération, tu portes un passé incroyable, t'as une responsabilité, et toi pour un petit problème personnel, pourquoi il n'y en a pas des belles juives? Il n'y en a pas. Que t'as été pourrir toute la suite de la génération pour toi, pour ton petit problème personnel. C'est pourquoi? Parce que t'es égoïste, parce que t'es bête, parce que t'es ignorant, parce que t'es un malin. Donc quand quelqu'un réfléchit, que cette avoda là, de la paracha de Zachor en même temps que la fête de Pourim, parce qu'en vérité dans l'absolu on aurait pu faire séparément. Pourquoi il faut les deux en même temps? Parce qu'il faut que tu cherches, tu luttes contre le négatif de Amalek et que tu acquières le positif de Pourim, et les deux ils sont inséparables, parce que tu ne verras jamais la valeur de la joie si tu ne connais pas le danger du plaisir. Tu n'auras jamais la satisfaction de l'argent honnête si tu continues à voler toute la journée. Tu ne pourras jamais comprendre qu'est-ce que c'est le Shalom Bayit si tu continues tes mesquineries de gamin, de casser, de détruire l'autre. Jamais tu comprendras. Parce que tu n'as pas enlevé un mal-être. Alors comment tu vas apprécier la Torah? C'est impossible. Maintenant tu dis, non, mais moi je ne veux pas trop m'impliquer, je ne veux pas être obligé, je ne veux pas être... Alors tu continues à manger des demi-mesures, des demi-goûts, des demi... C'est dommage. Une fois pour tout, une fois pour tout. C'est bien. Ouais. dis, pourquoi il coûte cher? C'est de la bonne qualité. Pourquoi c'est un bon docteur? Ah, parce qu'il a bossé. Et pourquoi ils ont le shalom? Parce qu'ils ont travaillé. C'est comme ça. Donc ça veut dire que si toi, tu comprends qu'en fin de compte, la lutte contre Amalek et la construction de la joie de Pourim, et toutes les qualités que tu développes à Pourim, que de lutter contre tes doutes et contre tes peurs, et en même temps que d'aller chercher dans le positif et d'avoir la vraie simcha, la vraie joie. Ouais, parce que Pourim, c'est comme Kippour, sauf que là-bas, tu fais, à Kippour, tu fais tes chouva dans l'angoisse de la culpabilité de la Vera, alors que là, tu fais tes chouva dans la joie de la délivrance. Maintenant, toi, est-ce qu'il y a de sa délivrance? Parce que Vena'afoku, parce que la situation s'est inversée. Donc les gens, ils croient, on avait un grand malheur, et Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Non, c'est l'inverse, en vérité. C'est que la seule manière de te renverser, c'est qu'il y ait la pression. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, si tu n'avais pas vu que cet enfant, il avait... Il, par exemple, tu t'énerves à chaque fois, il ne fait pas les devoirs. Et un jour, tu dis, tu sais quoi? Viens, on va lui faire vérifier les yeux. En vérité, il ne voyait pas bien. Et la morale Ahmara, elle met au fond de la glace. Et lui, ça fait 6 ans qu'il ne voit pas le tableau. Et toi, tu dis, il ne suit pas, il glande, il triche, il joue avec ses copains. Mais il ne voit rien. Pour un petit examen, quel jour t'as dit? Viens, on va lui faire quand même vérifier les yeux. Viens, on lui vérifie les oreilles. Il n'entend pas. Il n'entend pas d'une oreille. Vous avez compris ou non? Tu vois, un détail qui change la vie. Tu sais comment s'appelle un détail qui change la vie? Ça s'appelle Vena'afoku. Or, dans le Na'afor, c'est le renversement. Et tu sais comment on fait pour renverser quelque chose? Je vous avais dit ça, la Gemara a dit que dans l'éducation, la gauche, elle repousse et la droite, elle attire. Ouais, on tire avec la droite et on repousse avec la gauche. La gauche, c'est la main du mal et la droite, c'est la main du bien. Donc on attire avec la main droite et on repousse avec la main gauche. Alors le Rav Simcha Wasserman, il avait dit, mais pourquoi c'est marqué dans la Gemara comme ça? Qui tire avec la droite et pousse avec la gauche. Il n'avait qu'à dire. Ben quand il faut pousser, tu pousses avec les deux mains, tu repousses la personne, allez, tu sais quoi, tu as un rachat, allez, je te repousse des deux mains. Et quand tu fais du bien, je t'attire de deux mains. Je dis, viens mon fils, viens, je suis fier de toi, viens avec les deux mains. Il demande pourquoi on a dit deux mains, on aurait dû dire deux mains pour pousser, deux mains pour tirer. Pourquoi on a dit une main qui tire, une main qui pousse? Pourquoi? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, parce que quand il y a une main qui tire, une main qui pousse, la personne elle change. Elle va changer, elle va évoluer, elle va devenir meilleure. Parce que moi, je veux ni te repousser, ni te rapprocher. Je veux que tu changes. Maintenant, la seule manière de tourner quelque chose, c'est comme quand tu veux retourner une armoire. Ouais. Tu pousses par là et tu tires par là. Mais si tu tires comme ça, elle reste comme elle est. Et tu la pousses comme ça, elle reste comme elle est. Mais toi, tu veux l'autre côté de l'armoire. Bah, tu vois, pour que les béni Israël fassent tes chouva, il fallait Aman. Il fallait Aman. Mais il fallait Mordechai. Il fallait Aman, parce que qui c'est qui peut organiser que tous les juifs de 127 pays en même temps, ils sont condamnés à mort pour un seul jour? Il faut la chorma et la méchanceté de Aman. Mais qui c'est qui va profiter de cette pression pour organiser des jours de Ta'aniot, pour organiser des prières publiques et pour organiser de la Teshuva? C'est Mordechai. Ça va? Donc s'il n'y avait pas Aman, Mordechai ne sert à rien. Et s'il n'y avait pas Mordechai, Aman il serait arrivé à ses fins. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit Chayav Inish Levasume, un homme il doit se saouler, mais pour Ya, Ad Deloyada, jusqu'à ce qu'il ne va pas savoir s'il faut bénir Aman ou maudire Aman. Et s'il faut bénir Mordechai ou maudire Mordechai. Tu dis, mais comment on va maudire Mordechai? Hazvé Shalom. Alors, même si vous connaissez cette explication, mais il faut réfléchir. On devine là. Il ne sait pas qu'il faut se saouler la gueule et prendre 10 litres de vodka et 3 litres de whisky. Les gens ils croient que ça c'est le cabot de pourri, de vomir sur la table et de tomber dans les pommes et de faire un coma éthylique. C'est pas la mitzvah de pourri ça. Ça c'est une mitzvah, c'est les alcooliques qui ont trouvé une bonne raison pour se saouler. C'est comme les gens qui boivent un 3 quarts de litre de bourra le Shabbat matin, ils disent votre Shabbat. Ouais. Ou ils boivent de la vodka, ils tombent dans les pommes jusqu'à 5h30 d'après-midi, ils ratent. Le repas de midi, le Berkat Amazon, Mincha, il te dit mais c'était Yarvot Shabbat. Et tu les vois par terre dans le vomi, parce qu'à cause de toute la vodka qu'ils ont bu. Mais vodka et kavod, c'est les mêmes lettres. Quand la vodka elle rentre, le kavod il sort. Parce que c'est l'eau kavod, c'est un kavod ça. dit la logique, c'est quoi? Il dit le gaon de Vilna. Il dit c'est pas que tu vas te saouler avec de l'alcool. Prends un petit verre, quand tu te sens bien, c'est bien, ça suffit. T'es pas obligé de te jeter, casser, fracasser dans le coma. Ouais. C'est quoi? Quelqu'un, il a bu un petit verre, il commence à réfléchir. Arrête, regarde. Oh, des rails. Il a braché, il a aidé à la teshuvah, il a organisé les choses, il a réuni les enfants pour prier, il a fait faire teshuvah aux gens, il organise des drachos dans les synagogues. Extraordinaire. Et d'un autre côté, il n'a pas réussi à convaincre le Sanhedrin. Ouais. Et ils ont fait le repas chez Achashverosh. Et les juifs, ils ont profité de la Seouda. Et ils se sont prosternés à la statue de Achashverosh. Donc en fin de compte, Mordechai, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Donc un rôle Mordechai, qu'il soit maudit Mordechai. Par contre, tu dis Haman, il marchait mot, prends compte, il avait la haine, il voulait la mort d'Israël, et il a organisé, il a préparé, il a obtenu le sceau royal, et il a obtenu la condamnation des juifs, et il a payé de son propre argent, et il a été. Mais d'un autre côté, grâce à ça, il a mis une pression extraordinaire, et grâce à ça, les juifs, ils se sont réveillés, et grâce à ça, ils ont fait des chouvas. Donc tu dis Baruch Haman. C'est que quand tu vois que le bien amène du mal, et que tu vois que le mal amène du bien, tu ne sais plus si tu dois bénir le bien ou si tu dois bénir le mal. Ça s'appelle que tu es saoulé, tu es saoulé. C'est ça, Haya Benish te va saouler. C'est que quand tu vas réfléchir dans ta vie, tu vas dire en fin de compte, comment je peux cracher sur mon passé et comment je peux avoir honte de mon passé alors que je suis fier de mon présent. Mais si tu es fier de ton présent, c'est grâce à ton à passé que tu es arrivé à ce présent. Ouais, et c'est le contraste qui a fait ressortir les bonnes choses. Et c'est grâce à la maladie que tu as compris l'importance de la santé. Et c'est grâce à ce dépôt de bilan que tu as compris que ta famille c'était plus important que ton argent. Ouais. Et c'est grâce à cette petite dépression que tu as réussi à sauver ton vice. Parce que c'est là que tu t'es rendu compte qu'il n'était pas bien. Mais si t'avais bien caché son jeu, eh ben il serait mort d'une overdose et toi tu aurais dit, vraiment je m'attendais pas. Comment quelqu'un à qui je ne parlais jamais, comment j'ai pu ne pas t'apercevoir qu'il n'était pas bien? Ouais. Donc le mal, c'est bien. Et le bien, c'est mal. Parce que toi, tu t'es tellement enterré dans tes, tu t'es endormi sur tes lauriers que tu as fermé les yeux, tu n'as pas vu le danger. Donc dans Purim, Vena Fochu, c'est quoi? C'est le renversement. Oh, je vous ai déjà dit que le but de la vie, c'est pas de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'enfants et de faire beaucoup de mitzvot et d'étudier beaucoup la Torah. Le vrai but de la vie, c'est la remise en cause. De se remettre en cause. Maintenant, pour faire des mitzvot, il faut se remettre en cause parce que ton yitzhak, il te dit ne te lève pas, dors. Tu te remets en cause pour te lever. Après, tu as envie de regarder quelque chose de pas joli, tu te remets en cause pour ne pas regarder. Après, tu te remets en cause pour relire une sixième fois le Tosfot. Après, tu te remets en cause pour dire tiens, je vais faire une bête tzedaka au lieu de te donner des pièces jaunes que le mec il va s'étouffer avec. D'accord? Donc, et là, tu te remets en cause pour dire je vais encore parler avec ma femme. Et là, tu dis je vais casser mon orgueil pour parler avec mon enfant. Donc, en fin de compte, toute la vie, en fin de compte, les averot, c'est éviter les averot, c'est une remise en cause du Yetzirara, ouais, et faire une mitzvot, c'est une remise en cause de la paresse, et de la flemme, et de l'argent. Donc, de toute façon, c'est une remise en cause. Et de l'habitude aussi. Enfin, toutes les formes de remise en cause. Maintenant, comment on appelle la remise en cause? Mais la fokou. Ouais. C'est pareil pour la Torah. Aforba ve aforba, dekulaba. Donc, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourri, c'est la teshuvah de la remise en cause. Mais dans la joie. Tu es avec ta famille, tu es heureux, on a été délivré, on a réussi. Ouais. Ben c'est pareil, tu regardes ta femme, tu dis, bah, au Hachem, on a fait du chemin, on n'est plus des gamins, tu vois, toi, t'as ta famille, t'as les Tunisiens, ou les Libanais, ou les Marocains. C'est bon. Tu as fini avec ça. Maintenant, on parle comme des adultes, on grandit comme des adultes, c'est extraordinaire. D'accord, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce que t'as fait avec, pas tu dépenses trop. Eh ouais, ça y est, tu sais bien que je dépense. Voilà, je suis une dépensière. Mais j'ai le sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Donc, et toi, moi je dépense, mais toi tu gagnes. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Dieu te donne. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les mettre dans le cercueil. Viens, on profite, viens, on grandit, viens, on trouve. Ils ramassent. Et quand ils atteignent le milliard, ils font l'arrêt cardiaque. Et les enfants, en deux semaines, ils ont dépensé ce que les autres, ils ont gagné en 38 ans de privation et d'étouffement et d'armes. Va faire un kiff, prends une décapotable et fais la côte est, fais la côte ouest, allez vas-y va. Ah tu dis non mais on est religieux, mais avec la kippa. Je t'ai pas dit d'aller dans les plages nudistes. Trouvez une fille tous les deux, allez vous baigner, c'est pas interdit par la Torah. Ah avec ton Torah, mais je t'ai pas dit, fais de la faillou bien par ça. T'as compris, c'est-à-dire trouve un équilibre de bien dans ta vie, ouais, avec la Torah. Et donc tu t'étouffes, tu meurs, et après tu dis. Une fois le Rav Uri Zohar. Oui. Vous connaissez Uri Zohar? C'est un grand animateur de télé israélienne qui a fait Teshuvah, qui est devenu Rav. Il a fait des milliers de balles de Teshuvah. Une fois dans une conférence, il a dit, je crois pas qu'Hachem il a un chapeau et une barbe. Il n'a pas un chapeau et une barbe à Kadosh Baruch Hu. Que toi tu crois que tous les gens qui n'ont pas un chapeau et une barbe, c'est pas des juifs. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut quand même aspirer vers quelque chose de plus élevé que de dire je reste traditionnel par tradition. Je veux faire toutes les ans les mêmes avérotes que même le bon Dieu il s'ennuie. Il a pas un petit filouche. Même l'ange de la mort, il n'y a rien de nouveau. Tous les kippour, le même avérote, le même hatatir, pachatir, et on s'ennuie, on est là, on attend. Le bon Dieu il dit bon, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Donc ça te fait nafoko que tu grandis, que si le bon Dieu t'a donné une année de plus, c'est pour faire quelque chose. Que si t'as donné une année de plus avec les gens que tu aimes, il faut que ça évolue. Si tu as l'occasion avec tes enfants, c'est, ça évolue. Et c'est ça la simcha. Comme tu vas voir dimanche prochain, mais dans ta chaîne, j'ai la coupa d'un de mes garçons. C'est dimanche prochain, si Dieu veut, exactement la même heure, je serai, si Dieu veut, sous la coupa. Mais je suis content d'être ici avec vous. Et je serai content là, d'être là-bas. Ouais. Pourquoi? Parce que je te dis, quand tu fais ce que tu veux, après, le bon Dieu, il te donne de voir ce que tu dois. Ouais. Mais si tu t'étouffes, qu'est-ce que tu dis? Ah, le cours. Ah voilà, l'avion il est annulé. Après tu dis, et demain je dois aller à Nice. Donc j'avais l'avion le matin pour aller à Paris, et après l'après-midi pour aller de Paris jusqu'à Nice. Je vais reprendre l'avion à 5h, et je vais rentrer quelques heures à la maison. Mais ils ont annulé l'avion de l'après-midi. Donc demain je vais me taper 6 heures de train pour aller avec deux changements. Et je m'en fiche. Pourquoi? Parce que le bon Dieu il a fait ça. Ça veut dire qu'il m'a donné 5 heures pour réfléchir. Alors je vais parler, je vais travailler, je vais écrire, je vais profiter. Le bon Dieu, il a fait le programme, il fait le programme. Maintenant, il n'a pas un programme comme ça. Maintenant, je préfère qu'il m'a fait un programme de 5 heures de train que 3 mois d'hôpital. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut dire. Parce que des fois, il te met des 3 mois d'hôpital, et des fois, il te met des mauvaises nouvelles, et des fois, il te met des bêtises de tes enfants, et des fois, un raf qui te juge mal, et des fois, les impôts qui s'occupent de ton cas. Donc, si tu es un peu malin, ouais, tu dis, mais tout ça, anime kabel et zebe simcha. Ouais. Et en plus, c'est au mois d'Adar, je le prends. Mais qu'est-ce que je fais? Je participe à une dynamique positive de voir Hachem. Hachem dit, toi, t'es proche de moi comme ça? Je m'occupe de ton cœur. Je m'occupe de toi. Ça va bien se passer. Mais si tu dis le contraire, ça, c'est pas facile. Le monde, il est mal fait. Et c'est pas la bonne personne. Et les enfants, je suis déçu. Et j'ai encore grossi. Et mon corps, il répond pas à mes besoins. Et là, par là, ça, c'est pas ce que j'attendais. Eh ben, tu vas avoir une Ashgaha pourri. Hein. Pourri, tu sais pourquoi? Parce que le monde, il est pourri. La société, elle est pourrie. Les gens sont pourris. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la jgacha du monde? Elle est pourrie. C'est facile, elle est pourrie. Mais alors, toi, inconsciemment, si toi, tu ne fais pas ce travail-là de lutter contre cette tendance, et que c'est comme ça dans ta tête, il dit le Ramban, oui, qu'il existe, ça existe, ça existe, ça s'appelle le hasard. Et le hasard, c'est la lecture de Amalek. Et Amalek, c'est quoi? C'est que Dieu n'intervient pas directement sur toi. Donc si toi tu veux la Hashgacha de Amalek, si toi tu veux les circonstances, si toi tu veux les conjonctures, si toi tu veux les statistiques, qu'il faut qu'il y a 30, cette année il y a 32 503 personnes qui vont mourir de la grippe, eh ben tu peux faire partie de cela aussi. Mais si tu dis au bon Dieu, je ne peux pas mourir, j'ai des choses à faire. Et moi je lui dis, c'est vrai, là. Toujours je vous raconte Rav Israël de Sarcelles, il est Niftar, il est mort. Son cœur, il s'est arrêté pendant 45 minutes. Il est monté au ciel. Ils lui ont dit, bah, le papa, maintenant on va te juger. Lui, à 25 ans, il avait écrit 14 livres de Torah. Un gaon, ouais. Il est mort. Et au Bedin, chez le Ma'ala, il a dit, non, je ne peux pas mourir. Il s'est battu avec eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Il a dit, les femmes de Sarcelles, elles ont besoin de moi pour le Mikvé et pour le Shalom Bayit. Ils ont fait la Bamasa Matan, Bedin chez le Ma'ala, ils ont dit, ok. Il est redescendu, il a vécu 13 ans de plus. Il a raconté lui-même. Et lui, c'est pas un gars qui va raciner, c'est pas un mytho. Ouais. Et ça veut dire que quelqu'un, on lui a dit tu meurs, il a dit non. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est le libre arbitre. Au-delà de la xéra, au-delà du décret divin, il a été plus loin que le décret. Pourquoi? Parce que c'est marqué que les tzadikim, ils sont comparés à la fourche. Et qu'est-ce qu'elle fait la fourche? Elle dit la Gemara, elle retourne la paille. Ouais, mais à faire. Il a dit comme les tzadikim, ils sont mais à frim et à xardim. Ils renversent le décret divin. Que le décret divin, il était qu'il est mort, il a dit je meurs pas. Et le bon Dieu, il a dit ok, t'as bien défendu ta cause, tu retournes là-bas. Et l'autre, le contraire. L'autre, de toute façon, j'en ai marre. Tu sais quoi, ça vaut pas la peine. Et c'est, si c'est pour voir une famille comme ça, et si c'est pour voir un corps comme ça, et si c'est pour voir une femme comme ça, et bien autant mourir, autant mourir. Hachem, il dit Mechen Yerazon, Benoma. Amen. Et le mec, il est resté 62 ans à vivre. Mais il va mourir avant. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin qu'il a choisi. Donc c'est, il faut faire teshuva sur ça pour lui. Venafuchu, que même si ça nous coûte, mais on va changer. Mais on va changer dans la joie, pas dans l'angoisse. Donc il faut avoir conscience des problèmes, mais il ne faut pas avoir l'angoisse des problèmes. Il faut avoir conscience de l'importance de l'argent, mais il ne faut pas avoir l'angoisse de l'argent. Il faut avoir conscience que l'éducation des enfants c'est important, mais il ne faut pas avoir l'angoisse de l'éducation. Il faut avoir conscience que la situation en Europe elle n'est pas facile, qu'en Israël elle est très difficile, mais il ne faut pas avoir l'angoisse. Parce que sachez que Hachem il te fait un clin d'œil, parce qu'il t'envoie un bon signe, ou qu'il t'envoie un mauvais signe pour que tu te réveilles, ouais, dans les deux cas, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Mais si toi tu rentres dans le traumatisme, c'est comme si toi tu tiens le couteau du Palestinien. Et si toi tu réfléchis, tu dis c'est quand même incroyable que les trois quarts des gens qui se font poignarder, c'est des gens religieux. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, on réfléchisse comment ça se fait en tant que religieux et en tant que juifs solidaires, on doit faire teshuva pour que les choses s'arrêtent. Parce que ça, même la meilleure armée du monde, elle ne peut pas lutter. Tu ne peux pas lutter puisque les coutons sont en vente libre. Mais c'est dur d'acheter un missile. Mais d'acheter un couteau, c'est facile. D'accord. Donc, puisque les couteaux sont en vente libre et que ça peut arriver une trace d'échelle n'importe où, ça veut dire que tout le monde doit faire teshuva. Mais encore une fois, pas une teshuva dans l'angoisse, pas une teshuva dans la peur, une teshuva dans la prise de conscience et dans le volontarisme. C'est-à-dire, je vais améliorer ma casse-coute, je vais améliorer ma pudeur, je vais améliorer ma finesse, je vais améliorer mon Shabbat, je vais faire rentrer Shabbat 10 minutes avant. Qu'est-ce que tu risques ? Tu allumes des rentrées 10 minutes avant. Au lieu de rester avec dans la douche, je dis des chalot, 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 chalot. Tu arrives une demi-heure avant, ou une heure avant, tu prends ta douche, tu prends ton sefer, tu prends ton petit café, et tu lis la paracha. Détends, nahat ruah. Pas sur le périphérique, donc en priant pour cacher, il retienne le soleil. Il ne va pas le retenir. Tu arrives avec les sueurs, avec les stress, avec les. Tu cours après les avions, après les trains, après. Nahat ruah. Ouais, normal. C'est pareil. Il dit, ben ça, si tu fais tes chouva sur les stress, tu fais tes chouva sur l'entêtement, c'est ça le venafourou, que chaque pourim, tu as dévoilé une nouvelle personne de toi. Et par rapport à soi, tu as dévoilé une nouvelle ajgaha, parce qu'Hachem, il va se conduire différemment parce que tu es différent. Ici, c'est pour te bourrer la gueule, et pour raconter des blagues, pour te déguiser en curé. Alors, à quoi ça sert ? Encore un pourrime de trop. Donc Hachem, il fasse Bezant Hachem. Ça, je l'ai dit avant. Que Bezant Hachem, qu'on fasse tous un bon pourrime. Je vous souhaite beaucoup de nachal, beaucoup de sifra, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Bisous, parmi on laisse le Seigneur à sauver là-bas. Amen. J'ai amené des CD gratuits. Parce que je vois qu'à la vente, ça ne part pas, mais gratuit, ça part très bien. Donc, ils sont là. C'est des nouveaux titres, ils ne sont pas. C'est des inédits. D'accord ? Il y a 12 cours hein, dans les CD, ça s'appelle les essentiels. Et vous pouvez les copier, les donner à vos copains, à vos frères, à vos soeurs, à vos amis. Essayez d'éviter les bonnes parce qu'après, ils sont trop demandés.
Lila, ça te mène. Arrête, Lila, ça te mène.
Et la prochaine date ? Ah, la prochaine date, si tu veux, ça sera le 29 mai. Il n'y a pas de mai. C'est 29
avril. Avril,
non, il n'y a pas. Avril, c'est ça. On n'a pas réussi à trouver de date, donc il n'y a pas.
Ça sent moins. Le thème, c'est une surprise.
Ouais, le thème, c'est une surprise. Voilà, pas d'accord. Bon, aussi.